Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 18h04, ravi de vous accueillir pour un nouveau Team du Gage jusqu'à 20h sur RMC. Parmi nous, le maître de cérémonie, c'est Jean-Louis Tour. Bonsoir mon Jean-Louis.
Bonsoir à tous.
Comment ça va mon poulet?
Ah bah ça va super, hein, écoute.
Ouais bah écoute.
Toujours un peu triste hein, chaque jour. C'est toujours le dernier. Là c'est un dernier mardi, dis donc, c'est
mais
triste.
Mais non, sois pas triste, au contraire. Au contraire, il va se passer tellement de choses après. T'imagines même pas mon Jean-Louis, parce que tout ce que tu vas vivre la saison prochaine, ça va être merveilleux, tu verras.
Ah bah j'en doute pas.
Bah oui, c'est pour
ça. Je doute pas que toi tu t'ennuies aussi.
Mais surtout pas. Alors là, ça risque pas d'arriver. Franck Leboeuf avec nous également. Bonsoir, mon Francky.
Salut Christophe, salut Jean-Louis.
Ça va, mon poulet?
Bonjour à tout le monde.
Francky rend la séparation agréable. Tu vois, voilà.
Oui,
au moins, ça passe
mieux. Mais je suis comme toi, Christophe. Je pense que de belles choses arrivent pour tout le monde après. Donc, on va se revoir. On se dira bonjour. De temps en temps, on ira boire.
Le problème, c'est qui va garder Francky, quoi, de vous deux? C'est ça le problème de toujours.
Ah, bah, c'est du gars.
C'est mon Francky.
Moi je resterai avec Jean-Louis.
Oui, voilà.
Moi je resterai avec maman Jean-Louis.
Chacun voilà. Sien. Exactement.
Parce que c'est toujours bien de se blottir contre les tétés de sa maman. Voilà.
Mais ça va, oui.
Bon, il y en a plus.
Il y a plus beaucoup de tétés, moi.
Il est tout fin.
Mais les tétés, ça tombe quand même.
Il y a que des mecs tout fins maintenant. Pierrot Dorian, Adrien, Momo, nickel. Il y a que des
bestiaires.
Christophe Payet. Non.
On l'embrasse, il est dans sa voiture, nous écoutez.
Et Jean-Louis est un tout fin.
Donc ce soir, l'événement du gars, tu t'en es rendu compte, t'as même pas pu l'accueillir, qui t'a déjà à moitié sauté à la gorge. Hein, mais...
Non.
C'est Eric donc Dimeco, Eric Dimeco qui est là pour la dernière fois avec du gars.
Je te jure, mais tu sais quoi, Jean-Louis, on se fait Paris là en direct. Là, il y a nos auditeurs qui écoutent là. Dans 6 mois, il va venir gratter à ta porte pour venir participer un peu à l'émission. Il va s'appeler.
Ça, c'est possible. Hein.
Mais bien sûr.
Ça, on l'explique.
Quand tu as ouvert ta gueule, pendant 10 ans, 12 ans, comme ça, tu as ouvert ta gueule et tout, que le matin, tu vas te lever, même plus tu parles à ta femme et tout, parce que depuis 6 mois, tu ne parles plus, que tu es tous les jours avec elle. Et donc, il va vouloir vite te parler, il va vouloir.
Par contre, je choisirai un jour où tu n'es pas là, par contre.
Mais tu sais quoi, mais je t'écouterai avec grand plaisir quand tu vas revenir. Et même si je ne suis plus avec toi, je t'écouterai avec grand plaisir.
Bon, on n'en est pas là pour l'instant. C'est donc la dernière d'Eric dans Team Dugas. J'ai mis ton meilleur ennemi depuis 4 ans. Parce que tu l'apprécies, Eric.
Mais en même temps,
ton meilleur ennemi. Bon, parce que ça a été chaud parfois. Du coup, à 18h30, on va refaire un de vos débats historiques. Alors, on aurait pu faire le centre de formation de l'OM est-il au niveau? On aurait pu faire Thomas Müller a-t-il les pieds carrés? On aurait pu faire Griezmann. C'était quoi sur Griezmann? Je sais plus. Griezmann. Non, c'est pas Griezmann avant ça. Voilà.
Ou un grand joueur, je sais pas.
Voilà. Est-ce qu'il doit avoir des passes droits? Voilà.
Le génie
ça, Griezmann. Ah, Payet a-t-il du génie dans les pieds? Bien sûr. Fekir ou Payet. Mais on fera plutôt. Peut-on attirer des grands joueurs sans Ligue des Champions? Ça a été un fil rouge pendant 4 ans.
Ça aussi.
Donc on y reviendra tout à l'heure à 18h30. À 19h, les entraîneurs ont-ils leur mot à dire dans le recrutement? À Paris, Leonardo pense que l'entraîneur ne doit pas avoir son mot à dire. Juninho pense la même chose à Lyon. Coach Courbis n'est absolument pas d'accord avec tout ça. 32-16, il sera avec nous tout à l'heure pour en débattre donc à 19h. On se penchera aussi sur le cas des anciens Lyonnais, les Lacazette, Oumtiti.
Rudy Garcia, j'espère qu'il interdit le mercato, Rudy Garcia là, non?
Non, je sais pas, je pense qu'il doit valider quand même. Enfin bon, on en parlera tout à l'heure.
Ah ouais, encore, il a encore besoin de. Bon, tu me diras, il a réussi. Après ce qu'il a fait à Marseille, il a réussi quand même malgré tout à se faire prendre à Lyon. Donc il est capable de reprendre
un homme. Je crois qu'il essaie de refourguer Strootman à Lyon. Mais ils sont un peu dubitatifs là, ils hésitent.
Écoute, du côté de Marseille, tout le monde espère qu'il va se mêler du recrutement.
C'est ça, exactement.
Et Certic, il est où Certic? Il est toujours. Non, c'est fini Certic.
Il est en fin de contrat là.
Ah d'accord.
Ben, c'est fini.
Donc, c'est fini.
Il va peut-être le prolonger.
Ah ben il peut le prendre à Lyon.
Ah oui,
il est en contrat, il est libre.
Mais il a quel âge, Certic?
Bon, il est pas 32, 33,
il a encore un peu, il a encore un peu de.
Ouais. Un peu de quoi?
Un peu de deux ans pour gratter, quoi.
Ouais, d'accord.
Bon, et les anciens Lyonnais, donc Lacazette, Umtiti, Fekir ou Tolisso, leur trajectoire est-elle décevante depuis leur départ du club? On fera ce débat tout à l'heure à 19h30. On va commencer par l'OM. Supporter marseillais, Jacques-Henri Hérault commence-t-il à remonter dans votre estime? 32-16, appelez-nous pour en parler, même si c'est pas une opinion.
Moi, j'adore maintenant.
Ah bah, je
suis fan absolu.
J'imagine, du gars. Mais il y a quand même des choses à mettre à son crédit. On l'a beaucoup critiqué pendant des années. Mais sportivement.
Il a fait beaucoup de conneries quand même.
Ah bah, c'est vrai. Mais là, est-ce qu'il n'est pas en train quand même de redresser la barre? Villas-Boas sera là la saison prochaine. Il a fait signer le jeune Gay, donc un joueur libre. Le genre de bon coup qu'on lui reproche de ne pas avoir fait ces dernières saisons. Il veut aussi structurer le club. Et en plus de ça, le binôme avec.
Il a viré Zubizarreta.
Voilà, on attend le nouveau directeur sportif. Et en plus de cela, tout se passe bien en ce moment avec Vidas Boas. Mohamed Bouassi nous rejoint. Bonsoir Mohamed.
Salut Dugas, salut Eric, salut Francky, salut Jean-Louis.
Bonsoir. Salut Momo.
Ils s'entendent parfaitement les deux en ce moment.
Ah, ça surprend beaucoup de monde, Dugas en ce moment. Tout va bien. C'est-à-dire qu'on est passé tout près de la crise.
Plus rien ne nous surprend. Avec Eric, on s'est pourri et le lendemain, on arrive encore à se parler. Donc c'est ça, tout est possible.
C'est ça qui est assez surprenant, c'est que la séquence, comme on aime bien dire en politique, surtout en ce moment, c'est le bon mot. Ça se passe très bien entre André Villas-Boas et Jacques-Henri Hérault. J'ai échangé beaucoup de textos ces dernières heures avec des salariés de l'Olympique de Marseille qui me disent que Villas-Boas est plutôt satisfait et plutôt soulagé. Alors, on sait très bien que pour l'instant, bien évidemment, André Villas-Boas va faire une saison avec l'OM et arrêtera à l'issue de cette saison parce qu'il n'a pas voulu prolonger son contrat et qu'il a voulu rester réglo avec Jacques-Henri Hérault et la direction de l'Olympique de Marseille, et notamment l'actionnaire Franck Macourt. Mais pour l'instant, Villas-Boas se dit heureux, apaisé. Il a soumis une liste un peu secrète de 15 noms, où on a quand même eu quelques noms, et dans ces 15 noms, il y avait le fameux Pape Gay, les jeunes qui ont été prolongés avec des jeunes talents. Il faut plus jamais dire sur AMC le mot pépite, avec des jeunes talents, notamment Bertelli, Soiré, des jeunes que tu vas peut-être voir dans quelques années du gars à la télé. Ensuite, il y a eu la prolongation de contrat d'Alvaro, le fameux lissage avec la légère baisse de salaire de Payet, et surtout l'arrivée de Gay, qui était l'une des priorités d'André Villas-Boas parce qu'il adore son profil. Il l'a échangé plusieurs fois avec lui afin de le convaincre de venir à l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, tout va bien et c'est assez surprenant parce qu'il n'y a pas de head of football. Et les deux hommes arrivent à échanger quasi quotidiennement, plusieurs fois par jour, de manière très sereine et surtout à avancer. Et c'est ça qui surprend beaucoup de gens à l'OM.
Alors, Dugas, est-ce que ça suffit pour le faire remonter un peu dans ton estime, Jacques-Henri Hérault, que tout fonctionne bien comme ça avec Villas-Boas, ou est-ce que ça suffit pas encore?
Non, mais dans mon estime, il a toujours été très très haut. Même si j'ai pas toujours compris ce qu'il voulait faire ou dire, il a commis des erreurs comme tout le monde. Après, moi, Jacques-Henri Hérault, je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Moi, c'est quelqu'un sur le fond, sincèrement, que je trouve plutôt sympathique. Voilà, après, il a fait des erreurs. Attends, il est arrivé de Disney, il s'est retrouvé dans le football. C'est quand même pas simple. Le grand écart, il est quand même assez énorme. Il a commis beaucoup d'erreurs. Il a certainement appris de ses erreurs. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que ce qu'il fait dans une situation quand même compliqué de l'Olympique de Marseille, notamment financièrement. On peut parler de choses positives sur tout ce qu'a cité Mohamed. C'est plutôt très bien. Donc il remonte dans mon estime. Il a jamais été très bas. Il a fait des erreurs, mais bon, on en fait tous, on en dit tous, et on est là pour critiquer, on est là pour les relever quand elles sont très importantes. La plus grosse erreur qu'il a faite certainement, c'était de confier les rênes du camion à Rudy Garcia. Et ça, je pense qu'à un moment ou un autre, ensuite il y a eu la prolongation qui a suivi derrière. C'est compliqué d'être président dans un club comme l'Olympique de Marseille. Donc moi, j'ose espérer pour l'OM et pour lui, parce que comme je dis, je pense que c'est une personne extrêmement intelligente et c'est un mec plutôt sympathique. J'espère qu'il a appris de ses erreurs et qu'il a progressé, tout ça, tout simplement. Je trouve que c'est plutôt bien pour lui et pour l'OM. Donc c'est voilà.
Francky.
Ouais, je suis plutôt d'accord avec Christophe. Je trouve que c'est un bon virage qu'il a pris et qui peut l'aider à être apprécié des supporters. Maintenant, on a souvent targué Monsieur Hérault d'être un homme politique, donc un homme qui calcule bien ses coups et là peut-être que ça fait aussi partie. Et il est capable de prendre sous son aile quelqu'un qui n'est pas forcément son ami, mais qui fonctionne avec ses intérêts. Donc de se mettre copain maintenant avec Villas-Boas, ça fait peut-être partie d'un plan. Voilà, peu importe. À la sortie, si ça marche et que les intérêts de l'Olympique de Marseille sont sauvegardés, tant mieux s'ils nous font croire quoi qu'ils vont bientôt danser la salsa.
La salsa, la lambada,
c'est ce qu'ils veulent l'été, quoi.
Eric, sa cote, elle remonte à Marseille ou pas encore?
Non,
malheureusement. Ça part de tellement bas aussi.
Malheureusement. Alors après, il y en a qui reconnaîtront jamais quand ils travaillent bien, parce que il y a une certaine animosité, on va dire, de certains supporters après le président de l'OM.
Oui, c'est pour ça aussi que nous on en parle, parce que voilà. Si on le critique, il faut savoir aussi dire quand ça va bien.
Mais par contre, il y en a qui sont réalistes pour reconnaître quand il fait des choses bien, et c'est vrai que moi je trouve que le départ de Zubizarreta, alors à part le fait que ça risquait de faire partir Villas-Boas, Je trouvais que c'était une bonne chose parce que j'ai pas vu la patte de Zubizarreta ni sur le recrutement ni sur l'organisation du club, même s'il a essayé de nous vendre le campus et deux ou trois joueurs. Pour moi, c'était pas suffisant dans un projet comme celui-là. Voilà. Après, pourquoi je te dis non? Parce que c'est toujours pareil ici. Francky et Dugaï ont joué, donc ils le savent aussi bien que moi. Tu perds deux matchs ou trois, puisque ça va vite. Hein. Malheureusement pour lui, le premier responsable et le premier désigné par les supporters, ce sera le président, parce que Villas-Boas a une cote incroyable, qui peut partir au bout de six mois peut-être, mais qui il aura un seuil de tolérance quand même supérieur au président. Et donc du coup, et puis en plus, je vous rappelle qu'il y a cette histoire de rachat. Qui en est un sans en être un, qui en sera peut-être un, mais on ne sait pas si ça le sera véritablement. C'est-à-dire que y en a beaucoup qui espèrent encore que ce club-là sera vendu et qui mettront sur le dos des dirigeants actuels le fait qu'il ne sera pas vendu.
On notera juste qu'il n'y a aucune lettre d'intention qui est arrivée sur le bureau de l'Olympique de Marseille d'ailleurs. Oui, mais cette information en plus, elle devait arriver vendredi dernier.
Bon, le mal est fait. Pour beaucoup de supporters, le projet Mourad, entre guillemets, Boudjelal, était un projet d'espoir pour beaucoup de supporters.
Il savait être lucide quand même, Eric. Pour l'instant, il n'y a rien. Boudjelal, je sais pas, j'ose espérer quand même que je comprends qu'il y ait de l'espoir.
Tu as oublié ton passage à l'OM?
Non, mais qu'il y ait de l'espoir, je peux le comprendre. Mais au bout d'un moment, il y a aussi la lucidité qui doit revenir.
J'ai essayé depuis le début de cette histoire. Moi, ça me ferait plaisir qu'il y ait un investisseur qui ait beaucoup d'argent qui arrive à l'OM. Mais j'ai essayé de freiner des quatre fers parce que j'ai peur de la déception et j'ai peur des répercussions de la déception sur la saison prochaine. J'ai chaque fois essayé de dire attention, ne pas voilà. Donc ça, mais malgré tout, dans l'esprit de certains supporters et c'est souvent ceux qui font le plus de bruit au stade notamment, ça peut plomber le début de saison. Donc c'est pour ça que on va attendre encore un peu. On va attendre de voir la fin du recrutement, on va attendre de voir le début de la saison prochaine, et ça peut être en effet une saison apaisée si le recrutement continue à être intéressant et intelligent, et si l'année prochaine il y a des bons résultats avec un coach qui continue à avoir le mojo, ça se passera très bien et tant mieux. Mais voilà, on le sait tous, ça prend feu en deux jours ici. Hein.
Il y a aussi un dernier élément, c'est louer l'attitude de Villas-Boas aussi, qui fait tout en sorte pour le moment, parce que à Marseille, et Eric vient de le dire, et il l'a très bien résumé, ça peut tout peut être bouleversé en 24-48 heures, hein, tout peut partir en vrille en 24-48 heures, mais on peut louer l'attitude de Villas-Boas qui fait en sorte que ça se passe bien en ce moment, qui demande pas des joueurs qui sont impossibles ou intouchables pour l'Olympique de Marseille. Ça c'est plutôt sympathique de sa part.
Où ça en est la recherche du directeur sportif, du head of football?
On continue au sein de l'Olympique de Marseille.
Et est-ce que l'autre question qui va derrière, c'est est-ce que si ça fonctionne bien là cet été sans directeur sportif, Jacques Henriot, il peut pas se piquer
pour,
un peu?
Pour l'instant, il y a toujours une volonté d'avoir un head of football. On va quand même reprendre les mots de l'Olympique de Marseille. Ils veulent arrêter avec le head of foot. Ils sont peut-être rendus compte aussi que...
Peut-être que ce sera une boutique au football. Voilà, ce sera la tête, ce sera le boule.
Non, mais ça, c'est un directeur sportif ou un directeur du football plutôt. Un directeur du football qui pourrait aussi avoir un regard sur le centre de formation, etc. Et pas que la structure sportive
Eric,
de la première équipe.
C'est la définition d'Éric Dimeco.
Ce serait parfait.
Oui, bien sûr. Mais dis-moi, on a oublié quand même un truc dans notre... Parce que là, on brosse le tableau qui est quand même particulièrement...
Idyllique,
mais quand même, on n'a pas trop parlé du head of business qui est arrivé quand même.
Ah bah ça oui, on en a parlé la semaine dernière.
Ah oui, non mais bon, tu vois.
Si vous accueillez les supporters du PSG maintenant, il n'y a pas de problème.
Non mais celui-là, attends, parce qu'on a oublié de parler de cette histoire-là. Je peux te dire que les mecs sont remontés après lui ici, hein.
Toujours maintenant, c'est pas juste au moment de l'annonce sur les réseaux sociaux.
Non, mais c'est les vacances, c'est tout. Mais attends que la saison commence. Hein.
Tu crois?
Ah bah écoute,
c'est un mec dans les bureaux, a priori.
Eric, qu'est-ce qui vaut mieux, un ancien supporter du PSG compétent ou un supporter de l'OM qui comprend que dalle?
Tu parles pour Eric?
Non, je sais pas. Non,
pas. il pouvait pas y avoir un supporter neutre ou de l'OM compétent, tu vois, ça existe aussi.
Apparemment, ils l'ont pas trouvé.
Non mais la seule erreur, parce que c'est quand même un mec qui est qui est reconnu pour être compétent. La seule erreur, c'est terrible. C'est un homme qui travaille dans le digital, qui n'a pas screené, comme on dit, ou qui n'a pas effacé tous les tweets cleané, de son Quintet. Oui, j'ai dit quoi, screené? Oui, ouais. Cleané plutôt. Ouais. Tous ses tweets depuis quelques mois ou quelques années. Et il y a deux pauvres tweets qui étaient ridicules et il les a pas effacés.
T'as cleané tes tweets, toi, du gars?
Ah oui, oui. Déjà qu'il essaie de se cleaner autre chose, on verra. J'ai cleané de l'œil, moi, mais pas l'œil d'en haut, je te le dis de suite.
Johan nous rejoint au 32-16, supporter marseillais.
Salut Joël. Salut à tous.
Salut
merci,
Joël.
Merci. Salut Poulet. Franck, voilà. Eric, Momo, Jean-Luc Dugas.
Salut Joël.
T'es supporter de l'OM.
Voilà aussi, ouais, aussi.
Et est-ce que tu es amoureux de Jacques Henriero?
Ah, Jacques Henri, mais bien sûr, on l'aime tous à Marseille. Bah écoute, hein, là déjà, il a gardé Villas-Boas. Je lui mets un pouce bien haut. Enfin, je sais pas s'il a gardé ou si c'est Villas-Boas qui a bien voulu rester.
T'as bien liké.
En tout cas, voilà. Ouais. Mais en tout cas, je voulais te faire une grosse flipette. Comme dit Eric, parce que j'ai adoré en plus ce terme, les lipettes, je l'utilise du coup maintenant. Bien sûr, je dis que ça.
Tant que tu les fais pas, ça va.
non, ça, je reste calme. Mais en tout cas, ouais, je voulais vraiment te remercier. Moi, je t'écoute. Tu sais, j'ai toujours mes petits rituels. Soit je t'écoutais en direct, en podcast, pendant FIFA. Tu sais, il y a souvent d'autres gars aussi qui font ça. On joue à FIFA, on met le foot à côté. Il y a des débats, il y a des couilles. T'as pris des risques aussi. Je trouve que moi, ce qui m'a plu aussi, c'est que je pouvais pas d'accord 30 fois avec toi et d'accord 30 fois, enfin, et ça fait du bien aussi d'avoir cet esprit. Donc, voilà, je suis pas de la même génération que toi. Moi, je suis de 89. Je suis pas la même génération que vous, hein, en général. Mmh. Mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment plu, les anecdotes et tout. Et je te remercie encore parce que ça
merci
m'a manqué.
Beaucoup.
Voilà,
merci
je voulais
beaucoup.
Te le dire.
Il va vite revenir. Écoute-moi bien, il va vite revenir. Dans six mois, il est avec nous.
Et quand il s'est hurlé dessus avec Eric, t'aimais bien aussi?
Ah, ça, bah, je crois que c'était un des moments préférés. Je l'ai réécouté même encore si je l'ai écouté en direct. Eric aussi, il a le sang chaud, c'est un Marseillais comme moi. Peut-être un peu plus chaud que moi quand même.
Mais excuse-moi, mais des fois, c'était inécoutable.
Inaudible, ouais.
Inaudible, parce que des fois,
surtout des profs. Parce que
non, mais c'était entre les conneries que vous pouvez dire Eric et moi qui gueulais quand même plus toi, c'était juste.
Et ouais. Ouais,
mais Joanne, il aimait
bien.
C'est
comme le football. C'est comme le terrain. Des fois, tu vas tomber. Moi, je joue dans un club. Enfin, à Montpellier, c'est amateur, c'est un petit club. Je gère un petit club et on joue d'ailleurs en Fédération Football à 7, FMAF 7 de Montpellier. Et bref, et des fois, on s'insulte même sur le terrain, on s'embrouille et puis dans le vestiaire on se tombe dans les bras. Et c'est vous, c'est pareil.
Ouais, mais Eric, en plus Eric, moi je lui dis c'est un peu comme un vieil oncle, tu sais, un peu gâteux et tout, tu l'écoutes même plus quand il parle au bout d'un moment. Je dis bon, c'est fou.
Bon bah écoute, j'aime l'inviter le dimanche.
Ouais, exactement.
Il est gay le repas.
Parce qu'il bouffe tout.
Bon bah Joanne, on est content de t'avoir accompagné sur tes parties de FIFA en tout cas.
Ah bah écoutez, merci à vous surtout, merci à vous.
Bon, t'écouteras Jean-Louis quand même l'année prochaine, tu verras, ça sera
ouais, Jean-Louis, Mohamed, Eric, Jérôme, voilà, ouais, il y aura tout le monde. Merci de me laisser ma chance, Joanne, fait plaisir.
Merci à toi.
Bon,
merci
à toi, bientôt Joanne, en tout cas tu reviens quand
allez,
tu veux.
Bonne journée,
salut,
merci Joanne. À vous tous.
Salut.
Alors juste puisqu'on est sur votre duo là, Eric et Dugas, je me tourne quand même vers celui qui a été un peu l'arbitre de ce duo pendant longtemps, Franck Leboeuf. Ils vont pas te manquer les deux, j'imagine.
C'était plus Dugas ou Rico, toi?
Oh non, ça dépend des fois. Sincèrement, moi je vous adore tous les deux, mais à un moment donné, vous étiez exécrables tous les deux. En fait, à un moment donné, on avait juste envie de couper le micro et se barrer, quoi. Et que je regardais quelquefois Jean-Louis, j'y
mais c'est pas ce que tu faisais. Ah, mais heureusement que t'étais là pour poser une analyse un peu concise, tu vois.
Dans ce cas-là, tu sais, c'est comme quand je faisais Moscato Show où Vincent il partait un peu en vrille, on nous disait. On dit plus rien. Mais là, il y avait tout le monde, Antoine, qui me disait laisse tomber, laisse-les se battre, tomber. Il y a plus rien à dire. Quand vous étiez tous les deux en folie, fallait laisser faire quoi.
Ah bah Antoine, il
y avait, l'arbitre, c'est Jean-Louis qui arrive. Tenez-vous, maintenant, ça suffit.
Ah bah moi, je suis autoritaire.
Fois, ça marchait
vrai,
pas.
Ça, c'est vrai.
Mais voilà. Mais
c'est souvent levé d'ailleurs, Jean-Louis.
Ah, mais c'est pas avec eux, mais bon.
Je trouvais ça plutôt épique. Moi, je trouve que vous avez deux belles personnalités. Vous avez pas tout le temps raison et tant mieux, mais moi j'ai trouvé que beaucoup de fois du sens quand même ce que vous disiez.
Mais oui, et puis en plus vous aimez bien, c'est pas rigolo. Invitons Didier Deschamps, voilà.
Mais vous êtes pas arrivé à pour la dernière du gars invité
on peut pas tout dire, Eric.
Il y a plein de surprises
qui se préparent.
Jeudi je vais écouter ça.
Fais gaffe qu'il n'y ait pas mis trop glou Dédé.
Autant vous dire qu'on a rien dit à du gars parce qu'on veut pas qu'il mette des vétos.
Mais pourquoi voulez-vous me rabibocher avec Deschamps? Mais c'est quoi?
Parce qu'on aime pas les conflits.
Comment ça, t'aimes pas les conflits?
On aime l'amour. Non, on aime quand les gens s'aiment bien.
On aime l'amour.
Surtout des gens qui ont partagé autant de choses en commun. Fallait le dire tellement.
Fallait me le dire au début des 4 ans, alors. On aurait évité des embrouilles.
Imagine, jeudi, il y a Mitroglou qui arrive et qui vient de faire la bise.
On s'en fout de Mitroglou.
Non, mais est-ce qu'il est capable de dire qu'il y a que des gens qui nous intéressent?
Ouais, d'accord, il y a que des gens.
Nous, on veut Duga et Didier qui se prennent dans les bras.
Ça n'arrivera pas.
Duga et Didier.
Ah bah on peut pas lui envoyer un message là, Mohamed.
On va lui envoyer un texto. Je pense qu'il va accepter direct. Je pense qu'il va le laisser en vue sur WhatsApp.
Te mets pas dans cette situation, Mohamed. C'est pas la peine.
Bon.
Non, parce que moi je reste après.
Ouais, bah oui,
c'est pour ça.
Oui.
Et tu vas même revenir tout à l'heure à 19h, Mohamed, pour notre débat autour des directeurs sportifs. On va revenir dans un instant pour vraiment faire le débat historique, Eric et Duga. À mon avis, ils vont être calmes.
Qui m'a donné raison encore une fois.
Ils se sont assagis avec le temps. Voilà. Oui. Ils se sont ramollis aussi un peu au fil des 4 ans.
Mais non, mais je vais le défoncer pour la dernière.
On est des papas, des papis.
Voilà. Peut-on attirer des grands joueurs sans Ligue des Champions? 32-16, on revient sur ce débat dans une seconde. À tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Tim Duga,
Jean-Louis Tour,
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 18h29, Franck Leboeuf, Eric Dimeco, Jean-Louis Tour, Mohamed est parti.
Oui, je crois qu'il revient tout à l'heure.
Exactement, nous continuons. Tim Duga.
Exactement.
On va venir sur un débat qui allait bien.
Let's get ready to rumble.
Ah, juste avant, il y a quand même Adrien Aigouin. C'est gênant ces moments.
Quittez-vous.
Je pense que ça me manquera. Adrien Aigouin est là.
Oui,
bonsoir, le journal
bonsoir,
moyen.
Bonsoir les amis, le journal moyen ému aujourd'hui. Le journal moyen va perdre ce duo magique, émouvant, ce duo amoureux, Dudu et Didi. On va vous rendre hommage, les amis, parce que vous allez manquer au journal moyen.
Ça va quand même. Je sais que ça va être gênant.
Non, juste une petite séquence qui résume l'amour que vous vous portez.
Écoutez, ça va être gênant, mais c'est pas notre faute. C'est votre problème à tous les deux. Oui, donc oui, voilà. Sûr, ouais. Donc faut assumer après.
On est responsable.
On avait fait des bêtises qu'il a fallu assumer le lendemain.
C'est un couple qui passe devant le médiateur de couple qui essaie d'arranger les choses. Voilà.
Ouais, bon là on n'a pas réussi à arranger quoi que ce soit.
Peut-être aujourd'hui.
Merci Adrien, à tout à l'heure. Mais on va se replonger donc dans cette véritable histoire d'amour qui a débuté il y a 4 ans.
On va refaire le débat, on va encore se disputer.
32-16,
bien évidemment, sûr. Absolument pas d'accord avec tout ce que peut dire Eric. C'est-à-dire que de la première phrase jusqu'à la dernière. T'avais 200 millions pour atteindre la Ligue des Champions.
Mais qui a dit ça?
Adieu à leur projet, ils ont dit adieu à leur football, et maintenant adieu à l'Europe.
Non mais tu veux pas comprendre ce que je veux t'expliquer, mais c'est pas grave.
Mais c'est ta vision du football, c'est pas la mienne.
Je ne fais plus le débat avec toi.
Mais je sais pas. Mais c'est ça le problème.
Marseille, c'est médiocre.
Allez, vas-y. Dis que l'OM a les moyens de bien jouer, puisque tu as dit qu'on avait le 15ème
tour, qui m'a dit que t'avais la meilleure équipe de France.
Non, j'ai jamais dit ça.
Mais non, j'ai jamais dit ça.
C'est facile de faire des leçons.
Quoi,
des leçons d'esthétisme. Ah, ce qui me fait marrer, c'est quand j'étais d'en placer une. Je remarque. Alors, pendant longtemps, alors là, ça a été un des premiers débats, vraiment il y a 4 ans. Est-ce qu'il faut absolument jouer la Ligue des Champions pour attirer des grands joueurs? Et ça, vous n'avez jamais réussi à être d'accord pendant 4 ans. Pour toi, Duga, ça ne doit pas être une raison, ça ne doit pas être un blocage pour bien travailler, la participation ou non en Ligue des Champions.
Mais moi, ce qui me gêne dans ce discours-là, c'est que ça sert d'excuse pour beaucoup trop de clubs qui, sous prétexte qu'ils ne jouent pas la Ligue des Champions, ont du mal à attirer des grands joueurs, des bons joueurs. On va pas dire des grands joueurs, on va dire des bons
joueurs. Ça y est, il a changé le débat. Et voilà. C'est-à-dire, comme il sait qu'il a perdu le débat, donc c'est plus grand joueur, c'est bon joueur. Ah oui, c'est sûr que là, je vais être d'accord avec toi. Tu as gagné.
Bon, voilà, alors vas-y. Alors, les grands joueurs. Alors, ok, pour attirer des grands joueurs. Prenons l'exemple de Lyon. Ils ont attiré qui comme grand joueur, à part, entre guillemets, comme grand joueur, Depay, que moi je ne considère pas comme un grand joueur, mais qui pourra peut-être le devenir un jour. Lyon, ils ont joué la Ligue des Champions tous les ans. Ils ont attiré qui comme grand joueur? Aucun. Donc je trouvais que c'était une excuse pour certains de dire « Ah oui, mais ils ne peuvent pas attirer des grands joueurs parce qu'ils ne jouent pas la Ligue des Champions. » Je pense que c'est bien plus compliqué que ça et à la fois bien plus facile que ça. Il y a plein de...
Laisser faire ça, Jean-Louis.
Non, je le laisse finir.
Tu ne peux pas laisser faire ça. Après. Il prend le débat à l'envers pour essayer d'avoir raison.
C'est-à-dire
que pour nous expliquer que les clubs qui ne font pas la Ligue des Champions ne peuvent pas recruter de grands joueurs, il nous prend... Pour exemple, des clubs qui jouent la Ligue des Champions et qui n'ont pas attiré des grands joueurs. Bah, et avec ça, il fait la généralité. Voilà. Alors que le débat, c'est pas ça.
C'est quoi le débat?
C'est l'inverse. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut obligatoirement faire la Ligue des Champions pour recruter des grands joueurs? C'est-à-dire que, puisque le débat, c'était sur l'OM à l'époque, rappelle-toi.
Oui.
Et donc, moi, je disais, mon propos, c'était, tant que l'OM ne fera pas la Ligue des Champions, il ne pourra pas attirer de grands joueurs. Donc, toi, tu veux prendre un exemple d'une équipe qui a fait la Ligue des Champions et qui n'attire pas des grands joueurs?
Non, mais je suis ravi que tu resitues le débat. Heureusement que tu es là.
Une nouvelle fois, je te remercie. Ouais, mais le problème, c'est que c'est deux fois que je viens de le resituer. Non, alors, donc, à un moment donné, d'accord. Je vais faire
alors,
le tien.
Alors, tu sais ce qu'on va faire.
Si on ne veut pas faire le mien.
Alors, tu sais ce qu'on va faire. Tu sais ce qu'on va faire. On va attendre le recrutement de l'Olympique de Marseille, puisqu'ils vont jouer avec des champions. Et on va voir comment ça va se passer.
Mais oui. Tu t'en vas.
Ah, mais non, mais je me défile pas. Ah, mais non, mais moi. Ah, mais vas-y. Ah, mais vas-y, je reviendrai. Écoute, je ne vais pas revenir. Je voudrais revenir juste une fois pour faire ce débat-là. Et on verra l'OM et les grands joueurs qu'ils ont réussi à tirer avec la Ligue des Champions.
C'est-à-dire que comme il sait, Jean-Louis, j'ai compris maintenant. Comme il sait que l'année prochaine, il va être obligé d'avaler son chapeau sur ce qu'il a dit depuis 4 ans.
Du coup, il part.
Il s'en va, mais bien sûr. Ça, c'est plus gagné.
Parce que l'OM va faire venir des grands joueurs, tu veux dire ?
Eh bien, tu verras. Mais oui, bien sûr.
Non, mais ça, tu ne crois pas sérieusement, Eric.
Ah, il est génial. Il est génial. Allez. Bon, ben, c'est tout, mais je n'ai plus rien à dire.
Voilà. Non, mais. Non, mais alors, Eric, toi, est-ce que quand même tu es un peu revenu de cette position ou pas ?
Ah non, mais alors, j'ai complètement pas. Mais c'est simple, il y a deux solutions. Pour faire venir, notamment en Ligue 1, pour faire venir.
Regarde, ils ont fait venir Payet quand même, ils l'ont fait revenir.
Toi, tu veux me tenter un panaché, là. tu me fais, dans un même débat, tu en fais trois en même temps pour essayer. Pour essayer que ça finisse en fight. Non, mais en Ligue 1, si tu n'as pas l'attrait de la Ligue des Champions ou si tu n'as pas énormément d'argent, tu ne fais pas venir des grands joueurs, c'est tout. Voilà.
Peut-être
c'est,
que et, les grands joueurs, ils viennent en Ligue 1, point barre.
Et la preuve, puisque
Ligue des Dugas, champions ou pas.
La preuve, puisque Dugas a élargi le débat, même Lyon qui faisait régulièrement la Ligue des Champions et qui est un club quand même qui a une vraie stabilité, une vraie surface financière quand même qui est intéressante en France, puisque c'est le deuxième club le plus important, ben même eux, ils ont du mal.
Voilà, donc c'est pas, c'est pas un problème de Ligue des Champions, c'est un problème de moyens. Alors, c'est un problème de moyens, Eric.
C'est
un problème
aussi un problème d'image.
D'attractivité, parce que quand je dis, il faut faire
l'attractivité,
la Ligue des Champions.
Tu viens le résumer en deux choses. Tu viens le résumer en l'argent et la Ligue des Champions. À partir du moment où tu joues la Ligue des Champions, c'est le problème, c'est l'argent, alors. Donc, c'est pas un problème de Ligue des Champions, c'est un problème de moyens.
C'est un problème d'image.
J'ai l'impression que Dugas a raison, là, quand même, Eric.
Mais non, mais ils ont raison tous les deux. Ils ont raison tous les deux. Le problème, il est là. C'est que, la Ligue 1, elle n'attire pas les grands joueurs. À part à une époque, il y a eu bien sûr l'OM, mais il y a eu Monaco pour des raisons fiscales et Paris Saint-Germain maintenant pour des raisons d'argent. Mais sinon, regarde Lyon. Aucun grand joueur ne veut aller à Lyon.
Non, mais t'es d'accord avec Dugas. Qui joue pas la Ligue des Champions ou pas, ça change rien.
Non. Pour moi,
la preuve, il y a un exemple à Lyon. Et on est obligé de réfléchir sur ce cas-là. Quand il récupère Depay, c'est parce que c'est un grand joueur en devenir qui ne réussit pas, qui peuvent relancer et lui est attiré par Lyon parce que il y a quand même la visibilité de la Ligue des Champions parce qu'il a beaucoup d'ambition. Exact. C'est un joueur, voilà. Et donc sinon, s'il n'y a pas la Ligue des Champions, tu peux lui mettre le contrat que tu veux à Depay, il vient pas à Lyon.
Ouais, mais il a raison, Eric, là aussi.
Oui,
il a
raison. Raison.
Mais vous avez raison tous les deux, en fait.
Mais non, toi, arrête de faire le Suisse sur la dernière.
Mais non, j'ai pas le Suisse. Mais les propos de Christophe sont aussi louables que les tiens. De toute façon, la France et la Ligue 1, en général, n'attirent pas les grands joueurs. Parce que il y a pas l'histoire, il y a pas.
Je vais reposer la question, je vais essayer de reformuler. Est-ce que sans Ligue des Champions, tu peux quand même faire des bons coups?
Non. Ah, beaucoup, oui, des joueurs qui sont.
Non, on parle pas de grands joueurs.
Bien sûr, Jean-Louis. Bien sûr. Et heureusement, il y en a qui font des bons coups. Il y en a pas énormément parce que c'est compliqué. Parce qu'en plus, on a un problème. On a un problème, c'est que normalement, la Ligue des Champions est censée te rapporter de l'argent et te donner un confort financier. Mais c'est pas du tout le cas parce que les clubs qui jouent avec des champions, c'est pour éponger les dettes qu'ils ont accumulées sur les années précédentes. Ouais. Donc forcément, c'est compliqué. Oui. Donc, à partir du moment où le club est mal géré depuis le départ et c'est une récompense sportive, la Ligue des Champions, bien sûr que c'est important. Mais quand t'as travaillé les 2-3 années précédentes, où t'as fait des mauvais recrutements, où t'as fait des mauvais choix, où t'as fait des mauvais investissements, eh bien, tu les payes. Donc, c'est pas qu'un problème de Ligue des Champions. Mais non, que la Ligue des Champions est une lumière pour tes supporters, est une exposition. Ok, elle amène quelque chose en termes d'image à ton club. Mais ça ne règle absolument pas tous les problèmes qui ont eu lieu juste avant, ou par le passé, ou sur l'année avant. Il est là la question.
La question, c'est est-ce que tu peux convaincre des joueurs, sans Ligue des Champions, parce que le joueur il sera toujours plus attiré par un club qui joue la Ligue des Champions. Et toi, Dugas, tu dis il faut plutôt lui vendre un projet à moyen terme en disant tu vas y aller même si c'est pas cette année.
Mais c'est pareil, moi Jean-Louis, quand on disait les grands joueurs ils veulent venir avec des grands entraîneurs, on dit on peut pas attirer les grands joueurs parce qu'on n'a pas des grands entraîneurs. Il y a toujours une bonne raison pour pas les attirer, ces fameux grands joueurs. C'est pour ça que je pense que déjà un grand joueur, qu'est-ce que c'est déjà, il faudrait définir ça. Oui. Après je pense qu'il y a quand même des joueurs qui sont encore capables. Moi je pense qu'il y a encore des joueurs qui sont capables, alors pas venir pour jouer pour la gloriole, hein. Ils ont besoin d'argent, ils veulent des contrats importants, mais je pense qu'il y a encore des joueurs capables de s'inscrire dans des projets intéressants, voilà, je pense que ça peut encore servir. Est-ce que, par exemple, Fonté, alors qui est arrivé, qui a quand même une grande carrière, c'est un joueur qui a un nom dans le football, il a réussi à s'investir dans le projet de Lille, alors il y va pas gratuit certainement, mais je pense qu'il y a encore des bons coups à faire. Depay, on peut considérer que c'est un bon coup aussi, c'est pas encore un grand joueur, mais on peut considérer que c'est un bon coup. Je pense qu'il y a encore moyen de faire venir des joueurs sur des vrais projets, j'y crois, et puis après, mais si je me trompe, mais tant pis, mais j'ai envie d'y croire en plus.
Quel est le grand joueur sur la dernière décennie qui est venu pour un grand projet à part peut-être à Nice, il y a eu des essais, mais est-ce que ce sont des grands joueurs, Ben Arfa, Balotelli, mais sinon à part Paris, Monaco encore une fois, parce que pour des questions plutôt financières et parce que Paris a les moyens de payer. Et
oui, c'est vrai qu'on sortait de la question du grand joueur vraiment.
Mais les grands joueurs, on les a pas vus depuis des décennies.
Regardez, Balotelli, il est venu sans Ligue des Champions à Marseille.
Ouais, allez, d'accord.
Donc,
replaçons le débat, parce que quand on s'était chauffé, c'était par rapport à l'Olympique de Marseille. Et c'était à une saison particulière, souvenons-nous. C'est la fameuse saison où l'OM rate la Ligue des Champions de 1 point sur la dernière journée au détriment de Lyon. Et où j'explique à Dugas que cette saison-là, ça peut être la saison qui fait basculer l'OM dans le bon côté de leur projet. Et ce que j'expliquais à Dugas, c'était que cette année-là, en attrapant la Ligue des Champions, eh ben, ça aurait pu,
et aujourd'hui, tu penses
mais
que ça aurait changé.
Une participation en Ligue des Champions n'aurait rien changé. Parce que, imaginons, c'est vrai que l'OM joue la Ligue des Champions au moment où ils auraient fallu, ça aurait apporté de la crédibilité à leur projet, effectivement. Sur le coup, ils arrivent à faire venir 2-3 joueurs, et les années d'après, ils y jouent pas la Ligue des Champions. Tu te retrouves comment les problèmes, les erreurs que tu as commises au départ,
oui, ça,
tu
le saurais puisque ça n'a pas eu lieu.
Oui, voilà, c'est vrai.
Ce que c'est aujourd'hui, c'est que cette fameuse année-là qui devait être l'année charnière qui te faisait basculer dans le bon côté du projet, eh ben ça n'a pas eu lieu.
Mais ça, on ne sait pas non plus.
On sait que le club aujourd'hui a 90 millions de déficit et qu'ils ont été obligés l'an dernier.
Mais on n'est pas sûr qu'avec la Ligue des Champions, tu aurais basculé.
Une Ligue des Champions avec Evra, une Ligue des Champions avec Mitroglou, une Ligue des Champions avec tout ça, t'aurais marqué 0 points. T'as fait les mêmes erreurs, les conneries, tu les avais faites avant. C'est pas le problème de la Ligue des Champions ou pas.
Vous savez, moi je sais pas et j'ai un gros doute. Moi je sais une chose, c'est que cette année-là, alors que tu fais l'UEFA au lieu de faire la Ligue des Champions et que finalement, du coup, ça te plombe ton projet, ça on le sait puisqu'on le voit aujourd'hui. Puisque malgré tout, tu as un gros déficit.
Mais tu ne sais pas si le projet n'aurait pas été plombé aussi. C'est ça qu'on essaie de te dire.
Si moi, je pense que
non plus, on ne sait pas.
Si tu te
vous
ne
savez pas, mais moi, je sais que l'inverse. Je sais ce que donne l'inverse. Et je reste persuadé que cette saison-là, alors que les finances du club étaient saines, une participation à la Ligue des Champions pouvait leur permettre de passer. Mais comment la dimension au-dessus?
Déjà, à l'époque, ils surpayaient des joueurs, déjà, à l'époque.
À ce moment, oui.
Bah disons que pour donner de tels salaires, c'est qu'ils étaient bien. Et pour donner autant à Spoliman, c'est qu'à ce moment-là, ils étaient bien.
Oui, mais ils donnaient bien. Ils faisaient une qualification pour la Champions League. Et après, ils ne se requalifiaient pas pour la Champions League. Ils se retrouvaient toujours avec ces salaires. Et là, ils plongeaient.
Vous vous faites de la science-fiction. Moi, je pars du principe que quand tu finis 3e ou 2e, que tu as les finances saines, que tu as la manne de la Ligue des Champions, ça se vérifie. Regarde, je pars du principe que tu as plus de chances d'être dans les trois premiers tous les ans quand tu as participé à la Ligue des Champions, que tu as gratté des sous de l'UEFA
avec Mitroglou et Strootman.
Et voilà, c'est tout.
Mais regarde la situation. Regarde la situation de Monaco. La situation de Monaco. Ils avaient des finances saines.
Ils ont tout vendu.
Ils avaient une situation très saine. Ils avaient des bons joueurs. Il faut une demi-finale de Ligue des Champions. Je crois que c'est ça.
Oui.
Demi-finale de Ligue des Champions. Regarde aujourd'hui où ils en sont.
Ils ont vendu les meubles.
On peut pas savoir ce qui va se passer. Peut-être que Marseille aurait voulu faire du trading, aurait voulu faire de l'oseille. On sait pas ce qui aurait pu se passer.
Mais qui sait, lui? Voilà.
Mais oui, c'est tout, exactement. Lui. C'est un génie.
Alors, on va donner la parole à Guillaume. Guillaume veut rendre hommage. Alors bon, vous rendez hommage à Dugas. On rappelle que, bien sûr, Dugas est toujours vivant et qu'il n'arrête juste Dugas. Salut Guillaume.
Bonsoir Guillaume.
Salut les gars. Salut Dugas. Un grand honneur d'être à l'antenne avec vous. Je vous écoute depuis le début. Dugas, tous les jours, je pense à toi, matin et soir. Je t'explique. En tout cas, Rico,
explique quand même.
J'habite à Limbourg, devant la sortie Saint-Leboeuf, matin et soir. Il me semble que c'est quand même une ville, un village qui était très cher.
Oui, oui.
Et je t'ai adoré en tant que joueur, je t'ai adoré en tant que commentateur sportif, en tant qu'animateur radio. Et moi, le souvenir que j'ai de toi, c'est un certain Nantes-Bordeaux pour le premier match de Pauleta, où tu débordes côté droit, tu fais le centre pour Pauleta, qui reste en l'air comme Michael Jordan pendant 30 secondes, et il place une tête magnifique. Je me souviendrai toujours de cette action.
Le premier triplé de Pauleta, premier match de Pauleta.
Ouais, mais bon, si tu t'en souviens, ça veut dire qu'il en a pas fait tant que ça cette année-là aussi. C'est toujours pareil. Hein.
Si, et ben, mais, Dugas, on disait Dugas Chine, mais c'est faux, quoi. Tu disais des doués que, techniquement, aussi doué que Zidane, voire même plus doué que Zidane à l'arrivée à Bordeaux. Et ça, je le confirme. Tu m'as régalé.
On dirait la voix de Jean-Roch, dire.
Ah non, c'est pas Jean-Roch.
Il a toujours des bonnes analyses, ça prend. Jusqu'à la fin, il va nous régaler.
En plus, c'était pas qui commence à appeler pour te, pour te faire.
Jusqu'à la fin, il va nous régaler, c'est fou. Ça.
Bon bah Guillaume, merci en tout cas.
Et bonne continuation.
Merci.
Pas sur le furet. Allez.
Ça, salut ouais. Guillaume, merci beaucoup.
Excellente idée, merci.
À bientôt.
Merci de t'inquiéter Guillaume. Pas.
Ciao.
Au bout de 6 mois de pêche à la ligne, où bien sûr il sera le meilleur, comme dans tous les domaines qu'il a touché, il va vite revenir dans 6 mois, on la connaît l'histoire.
Non mais t'as compris, quand tu passes sur le ferré, viens dire bonjour et
oui,
tout. Et
ça, c'est là, compris.
C'est
ah, ça c'est les copines.
Il y a tous ces potes qui vont appeler toute la semaine.
Petit pull torsadé sur les épaules, oui. Chaussures à pompons.
Oh là là.
Voilà,
exactement.
On a l'histoire.
Guillaume, qui est venu donc au 32-16, et vous aussi, si vous voulez aussi rendre hommage à Francky.
Non, laissez-moi tranquille.
Eh bien très bien, ne venez pas.
C'est Dugas, c'est Team Dugas.
Exactement.
C'est pour Dugas.
Dans un instant, le journal moyen avec une petite archive Dudu et Didi.
Voilà.
On va se régaler, à tout de suite. Non, parce qu'on va quand même pouvoir répondre sur le hashtag RMC Live. On me demande, et qu'en est-il de Francky?
Ah, bah il se barre.
Voilà, donc toi aussi tu finis cette semaine, Francky.
Je finis, je dis en même temps, bah ouais, du gars s'en va, je m'en vais. Hein.
Et c'est bon, ça.
Bah c'est ouais, ça. C'est 98, ça c'est.
Vous emménagez ensemble du coup?
Ah bon?
Aussi, ouais. Enfin, j'ai acheté les chaussures, le petit pull à colle.
T'as acheté les clubs de golf ou quoi?
Non, moi j'ai joué. Moi, c'est moi qui ai mis du gars au golf. Ah, oui, quand il est venu au Qatar. Donc il fallait que je fasse vite parce qu'il n'est pas resté longtemps. Mais il a commencé.
Et toi, t'as arrêté?
Et moi j'ai arrêté parce que j'ai des petits problèmes
golf,
de dos, je vais essayer de reprendre là, mais.
Non, mais il parlait trop,
je suis pas sûr. Ouais, je parlais trop à la balle. Je parlais trop à la balle, elle se barrait à droite, à gauche, quand j'avais pas. Ça va être ça, ouais.
Donc voilà, je réponds donc sur le hashtag RMC Live. Oui, tout va bien.
Ouais.
C'est Johnny qui posait cette question.
Tout va bien.
Plus de
bah, moi, je travaille pour une chaîne américaine donc, depuis 13 ans.
Et t'as plus que 5 secondes.
Et donc, tout va bien.
Bon, voilà.
Voilà, je sais que c'est fini même avant.
Allez, à tout de suite.
RMC, 18h-20h,
Tim Dugas,
Jean-Louis Tour,
Christophe Dugarry.
Allez, 18h47, les amis, vous êtes bien dans le Tim Dugas avec Eric Dimeco, avec Franck Leboeuf, avec Jean-Louis Tour. À partir de 19h, nous allons parler de Leonardo et Juninho.
Les directeurs sportifs comme eux doivent-ils gérer tout seul le mercato sans tenir compte de l'avis de l'entraîneur? 32-16 pour en parler. On viendra également sur une interview de Juninho où il n'est pas tendre avec Neymar, où il parle de la cupidité, de son rapport à l'argent. Ce sera dans la deuxième heure de Tim Dugas. Tout de suite, c'est le journal moyen. Adrien.
Cupidité, mot compliqué. Dans le Moscato Show, on n'a jamais employé. Ouais. À la une du journal moyen de Tim Dugas aujourd'hui sur RMC, de l'émotion, donc des adieux émouvants, très émouvants, ils vont nous manquer. On sera dans le bus du Stade Rennais, il se passe des choses sympas aujourd'hui dans le bus du Stade Rennais, on sait tout. Et puis avant que tu ne partes, Dugas, des nouvelles de ton kiki, que tu partes l'esprit tranquille et libéré.
Bien sûr.
Ton kiki, a priori, va bien, Dugas.
Ouais, il doit savoir. À son âge, il ne s'en même plus compte de qui
Et surtout, il ira de moins en moins bien.
Alors, tu vas écouter ce que je te dis. Ton kiki prend une importance totalement démesurée.
Oui, bah ça, on le sait.
Mais en France,
toujours.
Depuis la Coupe du Monde en Russie.
On pourra continuer les blagues sur le kiki l'année prochaine ou pas, Jean-Louis? Même sur Dugas. Ouais. Vous écoutez RMC, c'est le 349e journal moyen de l'histoire de Tim Dugas.
En direct de la rédaction d'RMC Sport.
C'est le journal moyen de Tim Dugas.
Adrien Aigouin.
C'est donc la dernière de Dudu et Didi.
Oh
là. Dans quelques minutes, Dudu et Didi vont se dire au revoir avec de l'émotion.
Oui.
Dans 7 minutes exactement. Mais est-ce bien la peine de se dire au revoir aujourd'hui, puisque finalement vous êtes déjà dit adieu avec des mots doux il y a quelques semaines? Vous avez fait le point, vous êtes dit bon, c'est trop bête, on est trop agressif depuis le début, Jean-Louis nous dit de nous calmer, donc on va se détendre, on va être dans l'amour. Ces adieux ont eu lieu le 21 avril 2020, en plein confinement, une période pendant laquelle les Français avaient besoin de se détendre, de se changer les idées en écoutant une émission de foot. une séquence, on a droit à une séquence Poutou Bisounou, j'ai envie de vous dire, c'était mignon. 21 avril, donc débat sur la reprise du foot, les charges sociales, l'économie du foot, la comparaison entre la comparaison entre l'économie du foot et puis la restauration, l'industrie, encore un débat qui a fait avancer la France sur RMC.
Tu sais qu'on a failli trouver le vaccin contre le Covid. Ça s'est joué à pas grand chose. Vous nous avez pas laissé ce soir-là, on l'avait trouvé.
C'est juste parce que Jean-Louis devait envoyer la pub. C'est au moment de la pub, vous allez trouver.
Bon. Quel dommage.
Alors, tout part de Dudu, du gars, qui à un moment va susurrer à l'oreille de Didi, d'Eric. Il lui dit: tu assumeras tes propos. Et à ce moment-là, quand Duga a dit à Didi: tu assumeras tes propos, on s'est dit: ah, c'est un mot doux qui a touché le petit cœur d'Éric Dimeco.
Tout le monde était important.
Ah, tout le monde était important. Donc la priorité, c'est le football aujourd'hui.
Mais non, c'est pas la priorité.
T'assumeras tes propos.
Mais qu'est-ce que ça veut dire?
T'assumeras tes propos. T'estimes que c'est plus important.
Mais toi, tu es qui pour me dire
t'assumeras tes propos, les gens? Les auditeurs vont se faire leurs opinions. Tu estimes que le football est plus important.
J'ai jamais dit ça.
Que les artisans. Voilà, mais si, c'est ce que tu viens de dire.
Mais non.
Le gouvernement est à l'écoute et grâce à ça, il a trouvé des solutions pour le déconfinement. C'était intéressant.
Tu sais que Castex était premier ministre grâce à vous.
Oui.
Ce soir-là.
Tu assumeras tes propos. Tu es qui, toi? Tu assumeras tes propos. Tu es qui, toi?
Et en boucle.
Tu assumeras tes propos, tu es qui toi? Jean Castex, écoutez, il a dit: oh, j'ai trouvé la solution pour déconfiner la France. La suite de ce moment Poutou Bisounou, qui va sortir une insulte en premier? Qui va insulter l'autre en premier? Suspense. Christophe Payet arrive pour les paris. Alors, la cote de Dudu, la cote de Didi. Moi, j'avais la réponse avant tout le monde parce que je le connais très bien. La réponse tout de suite en direct.
Si, c'est ce que tu viens de dire.
Mais non, tu penses que j'ai dit ça, donc ça veut dire que tu as compris ce que tu viens de dire. C'est ce que je te dis juste. C'est ce que je te dis juste. On est dans un pays où on a des droits.
Merci Jean-Louis.
J'allais vous dire, moi c'est.
Ah bah derrière, il n'y a pas une insulte, pas une attaque personnelle.
Il y a toujours une sorte de médiateur dans un gouvernement, et là c'est Jean-Louis Tour qui n'a pas d'insulte personnelle. Mais tchiki toi. Voilà. Merci les gars, vous allez manquer au journal moyen que vous avez alimenté depuis quelques années avec bonheur.
Tu vas me manquer aussi.
Merci du gars.
Il parlait à Eric, je crois.
Ah d'accord.
Adrien, j'aimerais que tu me manques, toi, de ces jours-là.
Mais nous on est collés à vie. J'adore Jean-Louis, vraiment Jean-Louis Tour qui dit pas d'insulte personnelle. Et puis mon Francky que j'adore, qui à la première insulte qui fait c'est trop bon. Ils sont en train de se foutre sur la gueule. On adore ça.
Ah bah là, spectateur à fond là.
Ce que j'adore juste quand même là-dessus, c'est que donc on avait dû reprendre Team du gars depuis je sais pas une semaine, deux semaines, et du gars qui était plein de bonnes intentions. Allez, il faut qu'on divertisse les gens.
Oui, on va divertir les gens.
Qui changent les
idées.
On va
leur amener de la légèreté.
Alors, reparlons de foot tranquillement et tout. Et là, boum, on se traite de con et tout.
Voilà. Ah, c'est la vie.
Alors, tu sais, moi je dis, dire à un con qu'il est con, c'est le.
C'est le cultiver,
moi je dis. Ah bon.
Sans transition, spécial économie, c'est notre spécialité dans le journal moyen de Team du gars. On change de radio.
Toute l'actu éco avec BFM Business.
Il y a une levée de bouclier au niveau de l'ECA, de tous les grands clubs européens qui risquent d'avoir une bulle spéculative. Expansionniste d'ailleurs, l'inflation risque d'être terrible, elle l'est d'ailleurs à l'heure actuelle.
Vous êtes tous des spécialistes de l'économie du foot aujourd'hui, dossier sur le cas. L'Observatoire du football, c'est très sérieux ce que je veux dire, le CIES, a publié dans sa lettre hebdomadaire une étude, c'est un calcul de l'évolution de la cote des joueurs des 5 grands championnats européens en cas de prolongation de leur contrat. D'accord ? Le cas de Kylian Mbappé qui est sous contrat à la base jusqu'en 2022. S'il prolonge, l'algorithme CIES prend en compte l'âge, le statut de prêt, les performances, la durée de contrat. Pour Mbappé, s'il y a prolongation, sa valeur passera de 242,3 millions lors de la dernière étude à 281,7 millions d'euros. C'est un calcul très savant. Ça veut dire que si le Real veut se payer Mbappé là demain, il faut faire un petit budget de alentours de 300 millions d'euros pour résumer. Surprise, avez-vous une idée du deuxième? Le deuxième joueur le plus coté s'il prolonge dans son club, dans les 5 championnats européens.
Alexander Arnold.
Non. Mais.
Sterling.
Non, même pas. Franchement, j'étais surpris quand j'ai vu ça.
Neymar.
Je l'ai pas assez vu jouer. Il s'appelle Sancho. Il joue au Borussia.
Il est parti, non? Il part à Manchester, non?
C'était en cas de prolongation. C'est vraiment du fictif. Il aurait value 222 millions d'euros. Le troisième.
Ouais. Je te rappelle quand même que tous ces calculs-là que tu vas nous sortir sont faits avec des algorithmes. C'est bien précisé.
Tout à fait. Voilà. Algorithme.
Donc le football se calcule maintenant avec des algorithmes et la valeur
C'est ça qui est.
Pardon, parce qu'on est un peu journaliste. Sancho, il n'a pas signé à Manchester encore.
Donc c'est en cas de prolongation en Allemagne. Eh bien, 222 millions d'euros. Wow. Et le troisième, toujours là, avec ses petits 115 millions d'euros.
Qui est Neymar ?
Non, Lionel Messi. Il est toujours dans la place, Lionel Messi. Eh oui.
Selon mais lui, par contre, il a une clause pour partir.
C'est fini. Il pouvait la déclencher là. Par contre, il peut ne pas prolonger là.
Oui, ouais, c'est ça. Contrat l'été prochain.
C'est ça.
Donc voilà les algorithmes du gars. Il est temps que tu partes, hein, parce que le foot est devenu un algorithme géant du gars.
Bah, les stats, hein, depuis le temps qu'on se les tape.
Sans transition. Allez, on quitte les algorithmes. Une belle histoire. Direction la Bretagne. Une info sympa, l'info du jour, le Stade Rennais est en stage à Dinard. Vidéo postée par un joueur dans le bus du Stade Rennais, ils sont en stage. Ils filment le jeune Eduardo Camavinga, 17 ans, fou de joie. Dans le bus, ils ont balancé la musique de la Ligue des Champions à fond. Camavinga est dingue, il est fou de joie, il étreint ses partenaires. À 17 ans, il vient d'apprendre qu'il vient de décrocher le baccalauréat aujourd'hui. Ah bon. Il a eu la bonne nouvelle, un bac général, bac ES, économique et social. Pas de mention, mais il a le bac, c'est fait. Bravo Eduardo, 17 ans, joueur de foot, convoité par l'Europe du foot et bachelier. Bravo.
Bravo à lui.
Bravo à lui.
Bravo mon poulet.
Ouais, qui a le bac ici?
C'est pas le cas de tout le monde dans cette salle.
Non.
Merci Eric, merci pour tout.
Merci Monduga, merci, je te fais des bisous.
Moi aussi je t'embrasse,
bon, j'espère, mon poulet. Quand je viendrai jouer avec Osiris à Bordeaux, j'espère que tu viendras nous voir. Hein. J'y serai plus mon poulet. Ah, tu n'es même plus à Bordeaux.
Il y a un petit pied à terre quand même.
Bon, alors, je serai nulle part où tu seras.
D'accord.
Ben, tu sais quoi, il
y a que appelle-moi, tu m'appelles avant et je me barre.
Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. On viendra jouer là où tu es.
Voilà. D'accord.
Moi, avec plaisir. Je vais être droupi, ton pire au cauchemar.
D'accord.
Merci Eric.
Merci pour
toi
Eric. À bientôt. Au revoir.
On revient dans un instant avec Coach Courbis qui nous rejoint. Les directeurs sportifs doivent-ils gérer le mercato seul sans tenir compte de l'entraîneur? 32-16 pour en parler. À tout de suite.
RMC 18h-20h Tim Dugas. RMC 18h-20h Tim Dugas. Jean-Louis Tour, Christophe
Dugarry. Allez les amis, 19h03, Tim Dugas continue pour la deuxième heure avec Jean-Louis Tour et Franck Leboeuf, toujours là?
Oui, je suis là.
Parfait les poulets, nous avons entendu Franck Leboeuf pendant la pub. Ça, il agit toujours pas qu'il faut couper le bouton rouge.
Non, mais bon, je le dis tout, il est au téléphone. C'est tout.
D'accord.
Voilà.
Ah,
donc, okay, d'accord. Ça lui pose pas de problème, il a coupé son micro, donc là on l'entend pas. Non, allons-y, Francky.
Excuse-moi, j'ai ma dermato qui m'appelait.
D'accord,
bien savoir. Important, les petits problèmes de peau avant l'été.
T'as quoi comme problème de peau?
T'as
plus un problème de cheveux que de peau.
Quand tu bronzes, que tu fais des petites taches blanches, là, on met une crème spéciale tous les deux fois par jour. Et donc voilà, j'ai eu ce problème là.
Oh, c'est mignon.
Un sacré problème.
Oui, c'est un problème de peau, faut faire attention.
Tu veux juste ce que c'est, mon Jean-Louis? C'est que je pense que, comme il a dit tout à l'heure qu'il ne continuerait pas l'année prochaine sur RMC, je pense qu'il y a toutes les chaînes qui sont en train de l'appeler, toutes les radios.
Ça m'étonne pas.
Bah oui, pas non plus.
C'est quand même Franck Leboeuf.
Je ferai aucun commentaire.
C'est quand même le titulaire en finale de 98.
Exactement.
Celui qui a musclé Ronaldo. Enfin, voilà. Laurent Blanc, qui appelle Laurent Blanc? Personne. Voilà.
C'est bien de rappeler.
Il n'a pas trop envie qu'on l'appelle.
Roland Courbis est avec nous également. Bonsoir mon Roland.
Salut les amis, salut à tous.
Bienvenue Roland.
Je viens d'écouter que 91% de réussite au bac, c'était mon année, et que j'ai pas pensé.
T'aurais dû le passer là. Ouais, t'aurais peut-être fait partie des 9%. Attention,
je te jure. Ah bah oui, c'est vrai que ça.
Avec la chance que t'as sur certains dossiers, voilà.
Et Julien Cazard également. Salut Julien.
Oui, bonsoir Julien. J'ai eu mon bac au bout de la quatrième fois.
Ah bravo.
Bravo pour cette persévérance. Non, mais ça veut dire que je lâche rien.
Ah oui.
Ça c'est
Gennaro Cazard déjà.
Ouais, j'avais 22 ans. Hein. Bon, c'est quand même pas bon.
C'est pas très reluisant. Ouais,
c'est-à-dire qu'en fait, je prenais une tête à tout le monde. J'avais de la barbe, voilà quoi. Fallait me respecter.
Et ton permis de conduire, tu l'as eu au bout de combien de fois?
40 ans. C'est vrai, tout est vrai. Hein.
Ah ouais, non, vraiment, t'as passé 4 fois le bac?
Ouais.
D'accord.
Qu'est-ce qu'il y a? Il est vraiment plus con que ce que je pensais.
Tu es vraiment têtu.
Bah, tu sais, faire des études, c'est pas une preuve d'intelligence non plus. Hein. On n'est pas forcément intelligent parce qu'on fait des études.
Ah bah à la fin, ils l'ont donné, le mec, il le passe 4 fois, ils l'ont dit.
On peut pas dire qu'il ait fait des études, Francky, parce qu'il a fait 4 ans pour avoir le bac.
Bah, il a été bac plus 4.
C'est bon ça.
Alors dans cette deuxième heure, le blind test sera là, parce que vous vous moquez de Julien, mais c'est le plus fort au blind test. 32-16 pour vous inscrire. Bien sûr, c'est le meilleur.
Ça mène à tout, hein.
Oui, c'est ça, exactement. Oui, là, tu te dis que tous tes cours de théâtre, etc., c'est pour gagner des blind tests dans Team Dugas.
Alors attends, j'ai pris 0 cours de théâtre de ma vie. Hein, je
ah bon
sûr.
Ah bah oui. Quand tu montais sur les planches, c'était que de l'impro au talent, quoi.
Non, c'était un genre de cotorep. C'est-à-dire que c'était pour aider les gens en difficulté.
Très bien.
Réinsertion par le théâtre.
Les anciens Lyonnais également au programme de cette deuxième heure. Leur trajectoire est-elle décevante depuis leur départ? On met dans cette liste Fekir, Lacazette, Tolisso, Umtiti ou encore Gonalon. On en débat tout à l'heure. Sur Lyon, Juninho a donné une interview aux Guardians où il dénonce, dit-il, la cupidité de Neymar. Je vous raconterai tout ça tout à l'heure. Mohamed Bouafsi va revenir avec nous dans une seconde. Justement, il est en train de discuter avec des membres de clubs dont on va parler tout de suite puisque... la relation directeur sportif-entraîneur fait beaucoup parler. Alors dans l'équipe ce week-end, on a pu lire les méthodes de Leonardo et surtout sa conception du rapport avec l'entraîneur, lui qui est directeur sportif du PSG. Ce n'est pas au coach de décider des recrues, le coach est là pour travailler avec les joueurs qu'on lui propose, pense à Leonardo. On sait qu'à Lyon, c'est le mode de fonctionnement qu'aimerait mettre en place Juninho également. Alors comprenez-vous cette logique ou a-t-elle trop de limites? 32-16 pour en débattre. Dugas, t'es plutôt d'accord avec eux?
Alors écoute, je suis plutôt d'accord avec ça. Après, il est hors de question d'imposer tous les joueurs. Après, c'est une question de compromis. C'est une question de compromis qu'il faut arriver à trouver. Et je pense que la qualité d'un directeur sportif, au-delà de trouver des bons joueurs le moins cher possible et de revendre ce que tu ne veux plus ou que ton entraîneur ne veut plus ou ne veut pas faire jouer, je pense qu'il doit être dans le consensus. Il doit être aussi capable d'expliquer ses choix, de les faire comprendre. Maintenant, sur le fond, oui, je crois qu'un directeur sportif est un homme du club. L'entraîneur n'est pas un homme du club. L'entraîneur peut, à mon avis, à tout moment partir assez rapidement. On se rend compte quand même que les entraîneurs sont souvent plus souvent virés que les directeurs sportifs. Et que fais-tu si c'est les entraîneurs? Ça a été pendant un moment, il y a des présidents qui ont essayé de délaisser un peu cette chose-là, qui voulaient travailler sans directeur sportif et laisser le soin à l'entraîneur de faire le recrutement. Mais quand l'entraîneur il est viré parce que les résultats ne fonctionnent pas, qui garde les joueurs? Qui doivent payer les joueurs? C'est les présidents, c'est le futur entraîneur. Non, je pense que le rôle d'un directeur sportif, il est de choisir les joueurs, alors en acceptation le plus possible avec les entraîneurs, mais quand c'est pas possible, je crois que c'est dans son rôle de pouvoir imposer des choses. Et voilà, moi je suis pas convaincu sur le fait. Même un club comme, tu sais, un club comme le Real Madrid, j'en ai souvent parlé avec Zizou sur son retour lorsqu'il est revenu au Real Madrid. Au bout d'un moment, il sait très bien que le président va vouloir faire venir des joueurs, que le directeur sportif va vouloir faire venir un joueur. Après, si sur une dizaine de joueurs pour voir large, sont recrutés, on va dire que l'entraîneur en prend 2-3, le directeur sportif 2-3 et le président 2-3, chacun se répartit un petit peu parce que chacun a envie de mettre son grain de sel dans ce travail là mais pour moi sincèrement, je pense que le directeur sportif doit en parler à l'entraîneur, mais ne doit pas forcément, je dis bien, avoir l'autorisation de l'entraîneur pour recruter ces joueurs-là, parce que le jour où l'entraîneur n'est plus là, eh bien, c'est le directeur sportif qui doit prendre ses responsabilités.
Alors, Francky.
Moi, j'ai une question à Christophe. Si c'est ce cas-là, comment tu peux former une tactique? Parce que un entraîneur va prendre les joueurs qu'il a à disposition, mais si tu fais un recrutement, pourquoi ne pas travailler vraiment avec l'entraîneur par rapport à une tactique que tu aurais et avec des joueurs dont tu aurais besoin selon cette tactique?
Je pense que l'entraîneur doit faire une liste de joueurs dont il a besoin, dont il espère avoir, et après c'est au directeur sportif de trancher en fonction de la faisabilité, en fonction du salaire. Pour moi, l'entraîneur doit soumettre une liste des joueurs dont il estime avoir besoin, et après tu as un échange entre les deux, mais je pense que le dernier qui doit donner son aval et qui doit décider, c'est le directeur sportif.
J'ai une question. Je peux avoir une question? Bonjour, Julien Cazard, Paris, 75-009. J'adore votre émission. Surtout toi, Dugas, tu vas nous manquer. Mais voilà. Mais j'ai une question. Est-ce que cette question, la réponse est la même si ton entraîneur est Jürgen Klopp ou Pierre Mankowski? Parce que moi, je veux bien qu'on pose la question de manière générale. Mais t'as des mecs qui viennent avec un projet global de construction, et puis t'as des mecs qui sont là, tu sens que c'est du passage. Genre Unai Emery, tu sens que le mec, quand il arrive, s'il commence à choisir les joueurs.
Regarde le Real avec Zizou, je t'ai répondu. Il a gagné 3 Ligues des Champions, il n'a pas pu imposer son recrutement.
Mais t'es d'accord que au-delà du, je parle pas de la qualité de l'entraîneur en fait, là je déconne, mais au niveau du style, c'est-à-dire que Zinedine Zidane est un entraîneur qui sait faire jouer une équipe avec des stars tout ça, mais Klopp c'est quelqu'un qui construit avec des joueurs complètement différents.
Oui, Guardiola non plus n'aurait jamais pu accepter ça, et lui il veut choisir
profil,
ses joueurs.
Voilà, est-ce que le profil de l'entraîneur que tu prends, ça joue pas? Je demande ça. Voilà, merci à tous et je trouve votre super émission.
Là, qu'est-ce que vous en pensez de ce que dit Julien Dugas?
Non, mais il a pas tort. Il a pas tort. Il me parle. Moi, je parle en général. Il me parle. Alors, c'est vrai que j'ai pris l'exemple de Zizou, effectivement, qui est particulier. Mais non, je crois que en règle générale, c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit, par exemple, à Bordeaux, pendant des années, Jean-Louis Triaud, il voulait pas de directeur sportif.
Parce qu'il voulait pas avoir arbitré. Un entraîneur
ne peut pas tout faire. Déjà, c'est assez compliqué d'entraîner. Déjà, c'est en plus, il faut qu'il choisisse les mecs. Alors, il s'acoquine avec des agents qui vont lui faire son recrutement. Mais non, mais le directeur sportif est un homme du club. Ça ne doit pas être un mec qui est à l'extérieur du club. Je ne crois pas que pour le bon fonctionnement d'un club, les choses sur le long terme peuvent fonctionner sans un directeur sportif qui prend ses propres responsabilités. Le jour où l'entraîneur... Comment tu fais le jour où l'entraîneur est viré? Comment tu fais que les joueurs qu'il a recrutés... Comme Rudy Garcia. Rudy Garcia, il a pris des mecs. Tu te retrouves avec Strootman, il a pris des mecs. Du jour au lendemain, il est viré. Et comment tu fais avec ceux qui restent?
Ah oui, bien sûr. Mais moi, je suis d'accord avec toi là-dessus.
Alors, je le mettais plus dans côté Pierre Mankowski, lui, que Jürgen
Klopp. c'est ça. Oui. Voilà. Non, mais c'est vrai que ça peut poser problème. Alors, tournons-nous vers un entraîneur, donc coach Robis.
Bien sûr.
Toi, j'imagine que tu as du mal à comprendre ces directeurs sportifs qui veulent tout gérer.
Oui et non. Dans le sens que déjà, il faut comparer ce qui est comparable. Ça, quand tu es directeur sportif de Paris Saint-Germain, tu n'as pas la même grandeur de chéquier que dans notre club. Donc c'est sûr que c'est très difficile quand tu es directeur sportif du Paris Saint-Germain de prendre un mauvais joueur. Il faut pratiquement le faire exprès et ça va.
Parlons du cas de Lyon, par exemple.
On en parle après, je te parle d'abord, s'il te plaît, de Paris Saint-Germain et de Leonardo. Donc je le suis, mais je le suis comme Christophe, qu'en partie, dans le sens que, dans l'intérêt du club, ok, votre histoire et votre précision de dire, bon, après, on va se taper, entre guillemets, les joueurs qu'aura voulu l'entraîneur, alors que l'entraîneur se sera fait virer. Mais bon, ce qu'il faut quand même réfléchir, c'est à ne pas se faire virer. Et dans l'intérêt du club, il doit y avoir quand même une discussion entre les idées de l'entraîneur, les possibilités financières du club avec le président et la vision du directeur sportif. Un exemple, je joue en 4-4-2, mais 4-4-2 c'est une chose et ça dépend aussi du profil des joueurs. Mes deux extérieurs, comment je les prends, je les mets comme on avait à Bordeaux à l'époque avec des Mikou, Benarbia ou nous, Duga et Ravanelli, les deux attaquants, qu'est-ce que c'est le profil au moins que je puisse dire à mon directeur sportif, le profil que j'ai envie, et après lui il va me les trouver et me posera, je pense, la question en disant, tiens, je t'ai trouvé ça comme profil, si on tombe d'accord financièrement, tu préfères ça ou ça, et moi j'argumente. Mais après, s'il y a un dernier choix, comme l'a dit Christophe, je ne m'imagine pas qu'il y ait un joueur qui puisse venir si il plaît pas au président, s'il plaît pas au directeur sportif, et s'il ne plaît qu'à l'entraîneur. Ça, évidemment, je l'ai pas envisagé. Mais imposer à un entraîneur un joueur qui n'a pas envie, eh ben, ça dépend du caractère de l'entraîneur. Là, Leonardo, j'ai dit, écoute, tu as les qualités pour être directeur sportif et entraîneur, mais il vaut mieux que tu fasses entraîneur, parce que là, sincèrement, si tu me prends celui-là, je comprends pas, c'est vraiment le dernier joueur que j'ai envie de coacher. Donc voilà un petit peu, on peut pas généraliser sur cette situation-là.
Oui, mais tu penses pas quand même, par rapport à ce que disait Duga, que l'entraîneur va quand même souvent être là pour avoir des résultats à court terme, parce qu'il sait que son temps de vie est limité dans un club, quitte parfois à mettre au second plan le moyen terme du club. L'exemple qui vient, c'est Anigo Deschamps. C'est-à-dire que Deschamps voulait des joueurs de 30 ans pour gagner tout de suite, cher, mais sur lesquels l'OM pourra pas faire une vente ou une plus-value plus tard.
Mais oui, mais ça, tu en discutes.
Ouais.
Tu peux dire, écoute, tu es bien gentil.
Là ils ont eu du mal à en discuter quand même.
Hein. Tu réfléchis à court terme. Nous, c'est-à-dire le président et moi, sur tel ou tel joueur, on peut. Sur tel ou tel joueur, on peut. Sur celui-là, on ne peut pas. Donc voilà, tu me donnes un exemple de Didier Deschamps à Marseille. Didier Deschamps à Marseille, après avant la dispute avec Anigo, on lui avait déjà proposé la place. Dès qu'il a su qu'il n'y avait pas la possibilité de faire un bon recrutement, ben il a pas accepté le challenge. Quelques années après, oui, quand il y avait une intersaison où il y avait ces 4 ou 5 monstres qui arrivaient avec des montants de transfert comme il s'appelait
Maloucho.
Voilà, donc il y avait Mbia, il y avait Diawara, donc oui. Donc si tu veux, et là il avait accepté le challenge. Donc là vous me donnez un exemple.
Des
précisions dans l'exemple.
Mohamed Bouafsier de retour avec nous, puisque en plus il a gagné une info dont on vous parlera tout à l'heure en réponse à Juninho concernant le PSG. Donc ça, ce sera tout à l'heure avec les propos de Juninho concernant Neymar. Juste sur le sujet, qu'est-ce que tu voulais ajouter ?
Non, je voulais ajouter souvent, messieurs, que les directeurs sportifs prennent des entraîneurs dociles, des entraîneurs qui ont leur confiance pour accepter qu'ils n'ont pas la main sur le mercato, parce que les directeurs sportifs considèrent souvent que les entraîneurs passe, mais que l'institution reste et que reste un petit peu plus longtemps dans le club. Et notamment, on le voit dans les grands clubs allemands, les entraîneurs passent souvent, les directeurs sportifs ne bougent jamais.
Les directeurs sportifs sont là sur la durée.
Oui, voilà.
Et
c'est d'ailleurs pour ça que les relations sont très mauvaises la plupart du temps entre le directeur sportif et l'entraîneur, et que c'est le président qui calme les choses, parce que oui, les entraîneurs, comme l'a dit Roland, on sait que Didier Deschamps avait des exigences assez élevées. Moi, j'ai eu des échanges souvent avec des présidents qui me disent à chaque fois, je dois calmer la ferveur de mon entraîneur et je dois calmer la colère de mon directeur sportif parce que les demandes ne sont pas les mêmes.
Mais tu sais que sur ça, je te sortais l'exemple de Bordeaux, après je vous laisse réagir. Jean-Louis Triaud, il en avait marre justement de ces conflits-là. Il est toujours obligé d'arbitrer, oui. Et il s'est dit ça m'a saoulé, et c'est pour ça qu'il a arrêté.
Moi j'ai un petit problème parce que par rapport aux médias, souvent quand l'équipe joue pas bien, on va taper directement sur l'entraîneur. On va pas chercher le directeur sportif. On le voit rarement interférer après. Et il laisse le directeur sportif choisirait l'équipe, les joueurs, presque ferait la tactique, puisque s'il choisit joueur, c'est lui qui choisit de quelle façon on va jouer. Par contre, s'il n'y a pas les résultats, on tape sur l'entraîneur. Il y a un truc qui ne va pas.
Il choisit des profils de joueurs.
Ouais, le risque, c'est que si l'entraîneur, par exemple, il n'a pas choisi un joueur, il peut mettre Tricard, un gars qui est extrêmement brillant. Par exemple, Luis Van Gaal. Oui. Il avait un mec extrêmement brillant, mais il ne le faisait jamais jouer. Parce qu'il n'avait pas choisi lui-même.
On lui a vendu un super numéro 6, nouveau Pirlo.
Le mec, il ne veut pas jouer.
Ouais, parce qu'il ne voulait pas jouer à ce poste-là.
Non, mais ce qui est certain, c'est qu'un joueur qui signe dans un club, il faut qu'il ait, avant de signer, l'entraîneur au téléphone.
Ah oui, ça c'est sûr.
Voilà. Alors que le directeur sportif le veuille, c'est une chose, mais il doit aussi avoir un dialogue avec l'entraîneur.
L'autre exemple qu'on n'a pas cité, c'est Jardim, qui à Monaco, pendant longtemps, a fait avec ce qu'on lui donnait. Sans tenir compte de tous les départs, il en a avalé beaucoup des départs.
Mais sauf que les entraîneurs aujourd'hui ne l'acceptent pas. Les entraîneurs ne l'acceptent pas. On peut le dire. À part les grands clubs, quand un entraîneur arrive dans un très grand club, pour lui, l'exemple Jardim, il est assez dingue parce qu'il était dans un club qui n'était pas un très grand club européen, j'ai envie de dire. Monaco, même si c'est un bon club, c'est pas un très grand club, c'est pas la Juve, c'est pas le Real, c'est pas le Barça. Donc il a accepté ça. Mais dans les clubs moyens, des entraîneurs qui sont Deschamps à l'OM, il n'acceptait pas grand chose.
Il avait un salaire net d'impôt aussi qui lui permettait quand même d'être indulgent, tu vois, avec les trucs. Et puis si sur 70 joueurs sous licenciés, tu n'arrives pas à sortir un 11 de départ, bon.
Ouais, ils n'ont pas filé des tocards quand même. Hein. Ouais.
Je vous donne un dernier exemple. Bon, un directeur sportif m'a dit un jour, moi, je construis l'équipe pour les 7-8 ans qui arrivent. Et même après mon départ, cette équipe-là, elle devra tourner. Si j'écoute mon entraîneur chaque saison, le turnover des joueurs a lieu tous les étés. Tous les étés, je dois changer 4-5 joueurs.
Ça se tient. Moi, je trouve que ça se tient et qu'on devrait juste taper sur le directeur sportif quand les résultats ne sont pas là. Quoi.
Mais il faut faire gaffe aussi à un truc. Tu sais, j'ai deux oreilles, mais deux oreilles pendant une quarantaine, voire une cinquantaine d'années, en ont entendu de différentes sortes. Et j'ai entendu aussi, et c'est difficile d'avoir la réponse, que dans un vestiaire, il fallait quand même régulièrement changer et surtout pas faire la connerie, même après une saison réussie, de garder les mêmes à 100%. Il faut toujours en changer 2-3 minimum pour qu'il y ait de nouvelles têtes, pour qu'il y ait de nouveaux challenges, pour qu'il y ait, si tu veux, de nouvelles choses. Donc après, que l'ossature d'un club Oui, ok, mais dans la période actuelle, l'ossature d'un club, et si tout de suite tu as un coup de téléphone avec avec une offre, ben ton joueur que tu aurais aimé garder, ben tu le vends.
Hein. Et pourquoi en Angleterre, par exemple, il n'y a pas ce problème-là? Guardiola décide de tout, Lampard décide de tout, Solskjaer décide de tout.
Non, mais le problème aussi à Manchester City, par exemple, tu cites Guardiola, Tiki Beglistein, son directeur sportif, est arrivé avant lui et l'a ramené. Et il voulait absolument que Guardiola vienne. Ouais. Et souvent en Angleterre, il n'y a pas de directeur sportif, il y a des managers généraux.
Donnons la parole.
Et un président.
Voilà. Ahmed, qui est avec nous au 32-16. Salut Ahmed.
Salut les gars, merci beaucoup de la parole. J'adore votre émission, j'adore du gars.
Salut Ahmed, merci beaucoup.
Alors, je précise, vous n'êtes pas obligés tous de dire ça, hein, parce que c'est la dernière semaine de Team du gars. Voilà,
je rigole, c'est la consigne donnée aux auditeurs par le standard.
Vous pouvez parler librement. Vas-y Ahmed.
Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec l'idée que c'est le directeur sportif qui dirige. L'entraîneur, il donne des profils. Il dit, je veux plutôt un 6, je veux plutôt un grand, un gars technique. Et après, à lui de chercher. Moi, je suis pas d'accord que l'entraîneur décide des joueurs qu'il doit prendre. On a vu à Marseille, est-ce que les Marseillais sont contents de garder Certic et Strootman? Ben non, ils l'ont sur le dos maintenant. Regardez, il y a aussi une mauvaise foi chez l'entraîneur. Regardez Paredes, il en veut pas de toile de Paredes, il le fait pas jouer. Il voulait Gay. Finalement, il a mis Gay. Est-ce que Gay s'entend bien avec Verratti? Ben non. Et on voit que Paredes, ben, tout contraire, il fait l'affaire. Donc le choix de l'entraîneur, parfois il est subjectif, parfois il a un joueur dans le pif, on ne sait pas comment il voit les choses, il a des copains. Moi je préfère que le directeur sportif ait les choses en main. C'est la garantie pour le président et pour la durée du club pour moi.
Bah oui, bah écoute, on est plutôt d'accord avec ça, hein, Ahmed, donc voilà, tout va bien.
Ouais, ouais, effectivement.
Bon, merci Ahmed pour ton intervention.
À bientôt.
Tu reviens quand tu veux.
C'est sûr que quand un directeur sportif il met 50 millions dans un mec, c'est pas pour qu'il soit titulaire dans le dernier quart d'heure. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y en a qui disent, oh, mais tu seras titulaire dans le dernier quart d'heure.
C'est Tourelle qui voulait Paredes.
Ouais.
Non, Tourelle, il voulait Idrissa Gueye et Antero Henrique voulait Paredes. Ouais.
Mais du coup, ils ont pris les deux.
D'abord, Paredes, et pour faire plaisir à Tourelle, quelques mois après, Idrissa Gueye.
Après, il faut se mettre à la place de Leonardo aussi, donc, puisque je te dis qu'il ne faut pas généraliser. Le mec, il a réussi à faire un effectif avec deux numéros 9 comme Icardi et Cavani. Et que quand tu vas au match aller de Borussia Dortmund, il y a ni l'un ni l'autre, c'est sûr que ça ne lui donne pas envie de continuer à discuter.
Oui, t'as raison. Mohamed, reste avec nous. Justement, on va parler de Leonardo dans un instant, mais surtout de Juninho, qui s'est exprimé sur son compatriote, sur Neymar, avec des mots assez crus, assez tranchés. On revient là-dessus dans un instant dans Team Duga. Sachez juste que ça joue également en Angleterre. Chelsea mène 1-0 sur la pelouse de Crystal Palace. Encore un but d'Olivier Giroud. C'est quand même assez impressionnant le nombre de buts qu'il marque depuis que ça a repris en Angleterre.
Il a pris la place de Tammy Abraham.
Ouais, c'est incroyable.
Tu te rends compte qu'on serait en plein euro.
Quelle trajectoire. Oh. Ah oui, là, on sera en plein euro, effectivement, coach. On serait même vers la fin de l'euro. Et bon, non, je ne sais pas quel stade on serait là, mais à mon avis, on ne doit pas être loin des demi-finales.
Ouais. Demi-finale.
Allez, les Lyonnais dans un instant, Juninho et les Lyonnais qui ont quitté le club. Leur trajectoire est-elle décevante depuis? À tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Tim Dugas,
Jean-Louis Tour,
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 19h27, Jean-Louis Tour, Franck Leboeuf, Julien Cazard, Roland Courbis sont bien là. Mon Jean-Louis, nous continuons sur quoi?
Nous continuons sur Lyon. Avec ce débat autour des anciens Lyonnais, leur trajectoire est-elle décevante? Et puis sur cette interview de Juninho, Mohamed Bouafsi est resté avec nous. Il y aura le blind test également dans un quart d'heure. Vous pouvez vous inscrire en faisant le 32-16, bien sûr. Alors, cette interview donc que Juninho a accordée à nos confrères du Guardian. Alors, sachez quand même que cette interview a été très longue. Elle a duré 2h30. Et après 2h30 d'interview, Juninho a fondu en larmes, figurez-vous.
Merde, ils arrêtent pas de chialer les Brésiliens. C'est l'enfer, quoi. Voilà. Mais j'en peux plus.
Bon, alors là, c'était pas parce qu'il avait gagné un match de Ligue des Champions comme Thiago Silva, c'est parce qu'il lui parlait de la situation sanitaire au Brésil, donc peut-être qu'il avait des proches touchés, etc. Donc voilà, on peut lui laisser quand même son émotion à ce moment-là, Julien.
Et quand même, que les Brésiliens qui pleurent, hein. Excusez-moi. Hein.
C'est oui, oui.
Ils toujours pour pleurer, les mecs.
Après, il a le droit aussi d'avoir des trucs perso, on ne sait pas. Voilà, on peut. Quand c'est Thiago Silva qui pleure en Ligue des Champions, on sait que c'est ridicule parce que c'est que pour du sport et un match de foot. Là, on ne sait pas.
Mais je ne parle pas du fait que c'est ridicule. C'est-à-dire que c'est fou d'être aussi autant dans l'émotion, quelle que soit la circonstance, c'est en interview.
Oui, mais là, ça peut être très grave, Julien. On ne sait pas. La crise sanitaire, voilà, il a pu perdre quelqu'un de sa famille. Tu ne sais pas. Oui, c'est tout ce que je dis.
Pas obligé d'en parler au Guardian. Mais c'est un peu gardé pour toi.
Mais écoute, l'émotion, parfois, tu la maîtrises pas. Voilà.
C'est vrai.
Toi, tu es hermétique à toute émotion. Tu es un rock.
Moi, de toute façon, un mec a dit du mal de Neymar.
Il a pas de pote.
Il a pas de famille.
Bon, en tout cas, pourquoi on parle de cette interview? Parce qu'il s'est exprimé sur Neymar.
Je vais pleurer si tu parles de ma famille.
Il s'est exprimé sur Neymar et surtout sur le rapport à l'argent des Brésiliens, dit-il. Il dit, regardez Neymar. Il est venu au PSG juste à cause de l'argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu'il voulait. Maintenant, il veut partir à la fin de son contrat. Mais maintenant, il est temps de redonner, de montrer de la gratitude. C'est un échange. Neymar doit donner tout ce qu'il peut sur le terrain pour faire preuve d'un dévouement total. Le problème, c'est que l'ordre établi au Brésil, c'est une culture d'avidité. On veut toujours plus d'argent. C'est ce qu'on apprend et c'est ce que nous avons tous appris, dit-il. Alors, et il continue, Juninho, en disant, en ajoutant, c'est tout simplement donc ce qu'il a appris. Je dois faire la différence entre Neymar, le joueur, et Neymar, la personne. En tant que joueur, il est top 3 mondial, il est rapide, etc. Vous connaissez tous ses qualités de joueur. Mais en tant que personne, je pense qu'il est coupable parce qu'il a besoin de se remettre en question et de grandir. Pour le moment, cependant, il fait juste ce que la vie lui a appris à faire. Voilà, alors je pense que le raisonnement est global hein, sur la façon dont les Brésiliens de percevoir l'argent. Et donc, ça a mis en colère le PSG, Mohamed.
Oui, parce qu'il y a quelques minutes, j'étais avec Leonardo au téléphone pour avoir une réponse au propos de Juninho. Et Leonardo nous a répondu avec fermeté. Je ne comprends pas pourquoi Aulas parle autant du PSG et désormais Juninho parle autant de Paris et de Neymar. Parce que dans cette interview au Guardian, Juninho évoque aussi le PSG. Leonardo ajoute, ça serait mieux de parler un petit peu de leur club. Nous, on ne parle pas de la situation sportive ou de la vie de l'Olympique Lyonnais et je demande à l'OL de ne plus parler de nos joueurs et de notre club, c'est une question de respect. Voilà, la fermeté, la colère aussi, l'agacement de Leonardo, qu'on a marre toutes les semaines de voir des polémiques et des petites phrases venant de Lyon sur le Paris Saint-Germain.
Duga, qu'est-ce que t'en penses?
Non, mais je peux comprendre, après, bon, c'est l'interview.
Comprendre Leonardo?
Non mais il répond aux questions, oui, ouais. Il répond aux questions, ouais. Juninho qu'on lui pose, mais sincèrement, il le sait, Juninho, que ça parle pas de l'autre club, de Neymar. Enfin, je vois pas l'intérêt, tu vois, à partir du moment où il a le poste de directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, il a une espèce de droit de réserve, ça sert à rien, enfin, fallait le faire avant, quand t'es à Los Angeles ou un truc comme ça, tu peux parler des Brésiliens, du football brésilien, du football, de tout ce que tu veux.
Il aurait pu citer plein d'autres exemples pour étayer son propos sans citer Neymar. Des joueurs qui sont partis courir le cachet en Chine.
C'est génial. Mais Silvinho, il est venu parce qu'il aimait Guignol et les Frères Lumière, en fait. Non mais qui gère déjà les mecs qui fait venir lui, les Brésiliens qui fait venir lui, qui viennent pas pour l'argent et pour l'amour du club, on le sait. Ils sont tous venus pour l'amour du club parce que la vie au Brésil c'est chiant. Franchement Lyon, il y a le tunnel de Fourvière, tu t'éclates quoi.
Non mais c'est vrai que ça à Lyon.
En plus t'es sur une analyse là, t'es sur une analyse un peu psychologique ou je sais pas. Enfin c'est compliqué cette analyse. On parle même pas football, on parle même pas.
Oui c'est un peu sociologique.
Sociologique.
Non mais
voilà.
Ce qu'il dit c'est intéressant. Nous on lui fait confiance, il connaît mieux la culture brésilienne que nous sur certains trucs.
Oui mais ça fait deux ans, ça fait un an qu'il parle pas. Le mec on l'entend jamais. Et pour une fois qu'il parle, il fait de l'étude sociologique. Moi, ça fait un an que j'ai envie de l'entendre sur autre chose.
Non, mais c'est
sur
Lyon,
sur le fait que tu étais septième avec le deuxième budget, tout ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse.
Non, moi, je trouve que c'est dommageable parce qu'on connaît tous Juni et on connaît l'intelligence de la personne. Mais c'est vrai que l'exemple, il est pas bon parce que tu es en directe concurrence avec le Paris Saint-Germain et que bien sûr, ça peut énerver. Mais on sent une vraie pagaille brésilienne là, au sein de la Liga et des règlements de compte. Je trouve que tout ça dommageable, surtout qu'il n'y a même plus de championnat, il n'y a pas taper sur la gueule, donc c'était pas une belle sortie, je pense. Sur cette question, après, faut voir comment la question a été posée. Est-ce qu'elle a été posée en général sur les Brésiliens ou alors ça a été supposément pointé vers Neymar?
Ah, je pense que c'était en général. Puisque dans les déclarations qu'on a, c'est lui-même qui va prendre l'exemple Neymar, alors qu'il était en général d'abord, sur une généralité.
Non mais il y avait d'autres exemples avant de citer Neymar. On peut citer les Brésiliens qui vont jouer en Ukraine ou en Russie pour
Hulk, des sommes,
au Shakhtar Donetsk, etc. Neymar, quand il arrive au PSG, l'objectif principal de Neymar, c'est de gagner la Champions League et d'être l'idole, le dieu du PSG, ce qu'il n'était pas à Barcelone vu que c'était Messi. Il vient aussi pour l'argent, mais il a un vrai projet sportif. Il y a quand même des Brésiliens qui sont allés s'engager dans des clubs chinois sans aucun projet sportif et avec le projet financier.
Neymar, quand il vient pour l'argent,
un
grand joueur comme Neymar ne coûte pas d'argent en fait à un club parce que il y a le merchandising, il y a le marketing et tout ça, tout fonctionne avec Neymar. C'est pas un problème. Les joueurs que vous avez cités, je suis pas sûr que Hulk ait rapporté énormément d'argent au club pour lesquels il a signé.
Après, on le sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont venus au PSG pour l'argent. On le sait parce que la paye était bonne. C'est un fait aussi.
Oui, ça a compté aussi.
En fait, ça reste un grand club.
Non, pas Cavani.
Club, des ambitions,
c'est
pas,
Cavani, c'est parce qu'il aime la pêche et la chasse.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est sûr, hein, Duga, t'as raison. Ouais, mais... Après, l'autre question, c'est est-ce que. Alors là, bon, il faudrait faire une étude sociologique sur la population mondiale, mais est-ce que c'est un truc propre aux Brésiliens de penser à l'argent? Est-ce que c'est pas un truc du foot global?
Tout le monde.
Coach, quoi, penses-tu?
Oui, évidemment. Donc, dans le sens que là. Je me mets à la place de Juninho. Sincèrement, il peut dribbler sur cette question.
Oui. Ouais, il est pas obligé.
J'appelle ça un dérapage. Donc, tu peux. Et si même on insiste et qu'on te pose des questions sur Neymar, ben tu dois quand même, comme je viens de l'entendre, tu dois quand même penser que tu es Lyon avec un deuxième budget. Et en tant que Brésilien, parler de Neymar, tu ne peux parler de Neymar que de façon positive. Sinon, faut pas en parler.
Bien sûr.
Sincèrement, je m'imagine pas le pourquoi de cette position là que Juninho a pris. Je vois
et
pas.
On peut critiquer Juninho sur tous les sujets, mais on peut critiquer Neymar sur tous les sujets, l'argent de ça, mais pas sur son amour à la sélection brésilienne ou brésilienne. Il a pris souvent des risques financiers pour retrouver la sélection brésilienne. Vous savez, les blessures, les Jeux Olympiques, etc., pour retrouver sa sélection et passer ce moment avec ses coéquipiers. Donc là, la phrase, elle est vraiment maladroite.
Non, mais faut faire très attention. C'est vrai qu'on est dans une forme de géopolitique. C'est-à-dire que tu ne touches pas à un joueur spécialement parce qu'il peut y avoir des interactions qui
géopolitique.
Ouais, bah notamment une forme de géopolitique.
Au niveau des flux financiers, les interactions de la géopolitique, j'ai pas compris.
Il n'y a pas de bulle spéculative.
Si tu le mets à la place de Leonardo, c'est sûr que tu ne peux pas être content.
C'est sûr.
Alors, vous m'avez entendu pousser un petit cri là, parce qu'on suit en même temps Crystal Palace Chelsea.
Ouais, c'était beau.
Donc, il crie sur ça, sur Crystal Palace Chelsea.
Apparemment, il y a eu un but de Za pour Crystal Palace. Il y a 2-1 pour Chelsea, parce que Pulisic avait mis le deuxième. Et Za vient de mettre une. Non, merci coach.
Il vient de mettre une belle frappe.
Il vient de mettre une frappe. Tu peux créer des cris aussi. Zaya,
oui, aussi, effectivement. Des cris similaires. Donc, ça fait.
Non.
Bravo, Duga. Bravo, Duga, pour ce non. Quelle progression en 4 ans, c'est impressionnant.
À deux jours de la quille, c'est terrible.
Bravo, Duga.
Non.
Donc, voilà. 2-1 pour Chelsea sur le terrain de Crystal Palace. Et comme vous voulez tous savoir ce qu'il y a entre Watford et Norwich, sachez qu'il y a un partout dans cette rencontre. Voilà.
Cool.
Voilà, je savais que ça t'intéresserait.
Cool.
Les anciens Lyonnais, on voulait en parler également, puisque on en a énormément parlé lorsqu'ils étaient en Ligue 1. Les Lacazette, Fekir, Tolisso, Umtiti, Gonalon même, on leur promettait de grands avenirs un peu partout. Alors, certains ont rebondi dans de grands clubs, dans la foulée du passage à Lyon, Arsenal, le Bayern, Barcelone. Mais la question qu'on voulait vous poser, est-ce que la trajectoire de ces Lyonnais est décevante selon vous, ou est-ce que finalement ils sont à la place où vous les attendiez? 32-16 pour en parler. Duga, est-ce que il y a un sujet là, une généralisation à faire sur tous ces anciens Lyonnais?
Non, chaque cas est particulier. Fekir, non, parce que je m'attendais pas à mieux. Tu le sais, mon Jean-Louis, moi je trouve que c'est un joueur qui est pour l'instant surcoté depuis sa blessure, parce qu'avant c'était un joueur remarquable.
C'est ce que j'allais préciser.
Voilà, depuis sa blessure, je trouve qu'il a du mal à retrouver et que ce sera très compliqué pour lui, même si je lui souhaite de retrouver tout son potentiel pour aller encore plus haut. Tolisso, moi je pense que c'est une réussite au Bayern. Je trouve que chaque fois qu'il a joué, il a été performant. Moi, c'est un garçon que j'apprécie. Je trouve qu'en équipe de France, il a amené quelque chose. Là, il y a une concurrence qui est très très importante, donc forcément, il y a des choix de coach qui sont faits, qui lui sont pas favorables, mais je pense que son parcours est, à mon avis, moi, excellent. Qui y avait d'autres? Gonalon.
C'est pas le même niveau, Gonalon. C'est un bon joueur. C'est un tout l'allant.
Ah, mais il a été un leader à un moment donné du leader.
Après, en Italie, ça devenait peut-être un petit peu plus compliqué. Qui y a d'autres?
Lacazette, Umtiti, Tolisso.
Ah, mais Umtiti,
si on compare
Gonalon
et Tuzard, c'est qui le meilleur?
Ah, moi, je préfère Gonalon quand même.
D'accord.
Et toi, coach?
Moi, je préfère.
Tuzard, je trouve pas mal quand même.
Ouais.
C'est pas le même
chose. Umtiti, c'est formé à Lyon.
Umtiti, c'est une réussite.
C'est comme ça, il voulait faire une comparaison, coach.
Umtiti, c'est une réussite. On peut pas, parce que là, aujourd'hui, il y a l'anglais qui est arrivé, qui lui a pris la place, c'est un choix de coach. Mais Umtiti au Barça, ce qu'il a réussi à réaliser, c'est plutôt bon aussi. En équipe de France, il s'est imposé aussi. Bon, il y a eu des problèmes de blessures, mais ça, on peut pas. Oui, mais tu peux pas parler d'échec lorsque le mec il était pas blessé, il jouait, il était titulaire. Donc, Lacazette, il se retrouve dans une équipe compliquée. Je trouve que malgré tout, ses stats, sont plutôt intéressantes.
Umtiti, c'est 20 matchs seulement sur les deux dernières saisons.
Il y a une période, Christophe, que, que j'ai connu comme adversaire en tant qu'entraîneur de Montpellier, avant justement la blessure de Fekir. Le duo Fekir-Lacazette, ça faisait longtemps que j'avais pas vu deux joueurs aussi redoutables, aussi complémentaires que ces deux joueurs-là. Et malheureusement, il y a eu cette blessure de Fekir.
Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté, ça fait un peu penser, alors, proportion gardée, au Nantais de 95.
Ouais, c'est pas le c'est les autres, Nantes, c'est plus le jeu, alors que Lyon, c'est plus le contexte.
Quel Nantais a joué dans un grand club, à part Carambeu?
Carambeu, c'est bien, hein.
Non, mais Carambeu, il y a eu Makelele.
Paris Saint-Germain, à l'époque, c'est un
Oh, d'accord.
Non, mais alors, attendez, à l'époque, attendez, pour essayer d'aller peut-être un peu plus loin dans ce débat, est-ce que finalement, on a le bon jugement sur ces joueurs-là quand ils sont en France? Ou est-ce qu'on les gonfle pas un peu, les Lyonnais, hein. Est-ce qu'on les gonfle pas un peu trop quand ils sont en France? Parce qu'en plus, ils sont formés au club, donc on sait que les Lyonnais ont un attachement particulier envers ces joueurs-là. Et après, en dehors de nos frontières, on les voit pas aussi fort.
Bon, Jean-Louis, non, mais attends, je veux bien entendre ce que tu dis, mais Tolisso, il a joué au Bayern de Munich, il joue au Bayern de Munich.
Ah, il a été pris par l'ancien entraîneur, mais là maintenant ils veulent le vendre.
Oui, mais parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'il y a beaucoup de monde, parce que voilà, alors peut-être que mais Tolisso, moi je pense que c'est en équipe de France, il s'est imposé quand même le gamin.
Sauf qu'il n'est pas titulaire dans les deux.
Je suis pas d'accord avec toi sur Umtiti, je suis pas d'accord avec toi sur Tolisso, je suis pas d'accord avec toi sur Lacazette. Lacazette, il a Arsenal, il a des statistiques, ça se passe pas très bien. Il a quand même la Juventus qui le veut, il a l'Atlético Madrid, donc je pense que Lacazette reste un très bon joueur. Voilà. Après, non, je suis pas d'accord. Moi, je partage. À part Gonalon, je partage pas ton avis. Je crois pas qu'ils sont surcotés en France. Est-ce qu'ils ont réussi à l'étranger? Pour moi, c'est globalement une réussite.
Moi, je suis plutôt d'accord avec Christophe. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre à mieux. En fait, c'est vrai que on est plutôt déçu parce qu'on s'est dit. Non, mais je trouve que en général, c'est quand même assez bien réussi. Sauf qu'on se disait que peut-être il passerait une marche supérieure. Tu vois, pour ce nom de Fekir et Lacazette notamment, où je m'attendais à vraiment top. Mais il y a eu blessure pour Fekir. Il y a peut-être eu mauvais choix pour Lacazette. Parce que Lacazette, le fait c'est qu'il aille à Arsenal aussi. Hein. Si Lacazette il joue au Real Madrid, je suis pas sûr que les stades de Lacazette ne soient pas meilleurs. Donc il y a aussi le choix. Arsenal, c'est, je suis désolé pour les supporters d'Arsenal, mais c'est vraiment pas le club qui va te faire vibrer en ce moment, quoi, en signant chez eux.
Coach, quel est ton point de vue?
À peu près le même. Dans l'ensemble, c'est quand même pas mal ce qu'ils font. On sait qu'ils sont bien formés. Et même très bien formé, ce centre de formation est quand même très très efficace. Alors c'est vrai qu'après tu peux aussi peut-être te tromper de club et faire un mauvais choix. Ça aurait pu peut-être être mieux. Gonalon par exemple à Naples, quand j'ai vu ce choix, j'ai dit tiens, je vais suivre ça comme un passionné, mais c'est peut-être pas le bon endroit pour lui. Et en ce qui concerne les autres, je vais redire encore une fois que Fekir, qui était pour moi, et je parle au passé parce que je ne l'ai pas vu revenir, et j'espère pour lui me tromper qu'il revienne un jour, mais revenir à 100%, et ce 100%, je l'ai vécu pas seulement à la télé, je l'ai vécu sur un banc, c'était quand même un garçon redoutable. Après, Umtiti, toujours emmerdé avec son genou. Bon, derrière ça, Tolisso, oui, Tolisso, c'était un bon joueur à Lyon. Il a démontré que c'était un bon joueur, mais je le mets dans la catégorie des bons. Que ce soit à Lyon, au Bayern ou en équipe de France, je le mets pas dans la catégorie des très très bons.
Bon, d'accord, si vous voulez, moi je suis tout à fait d'accord. Je trouve que aucun d'eux n'est devenu taulier dans son club, dans un des grands clubs européens, comme ce qu'on nous annonçait au moment où il partait. Mais bon, à la limite, vous n'êtes pas d'accord avec moi.
Mais enfin, en même temps, on se base quand même sur Jean-Michel Aulas, en fait. C'est lui qui décide s'il y a un mec qui...
C'est pour ça que...
On en parle pas.
Oui, oui, mais après, il n'empêche quand même que les
si t'enlèves les traces d'Aulas...
Non mais déjà là où c'est une réussite,
ils ont rien fait en Ligue des Champions ces mecs-là.
Là où c'est une excellente réussite, c'est sur le prix de vente déjà.
Ah ça c'est sûr. Déjà, ça c'est sûr que c'est très bien.
Ouais. Donc déjà pour qu'il y ait des clubs qui sont prêts à payer aussi cher, c'est que ils avaient le sentiment que ces joueurs-là étaient des très bons joueurs et des bons joueurs. J'ai pas l'impression que la déception soit folle et je suis même persuadé que ces joueurs qui vont être revendus vont rapporter encore une nouvelle fois beaucoup d'argent. Leur club, c'est pas. Ah ben, je suis pas. Je pense que Umtiti, Lacazette, Tolisso vont être revendus.
Ah, tu penses aussi cher qu'ils ont été achetés? Bon, on verra.
Ah, je pense qu'ils ont encore une cote, encore une très belle cote. Oui, on verra. Je me suis trompé, mais.
Bon, voilà pour les Lyonnais. Je voulais vous raconter l'affaire Guirbic. Est-ce que tu as suivi ça, Duga?
Non, je sais pas. Adrien Gerbich, c'est en gros la révélation de la Ligue 2. Meilleur buteur à Clermont, le joueur que toute la Ligue 1 s'arrache. Enfin, toute la Ligue 1, pas forcément, le bas de tableau de Ligue 1. Et donc, il avait donné son accord à Brest. On parlait d'un transfert autour de 7-8 millions d'euros. Donc, on se disait quand même, Brest, ils ont les moyens, etc. C'est impressionnant. Et ben, finalement, il a changé d'avis au dernier moment. Et il va prendre la direction de Lorient. Et donc, on a interrogé Grégory Lorenzi, qui est le directeur sportif du stade brestois. Il n'a pas joué avec toi à Ajaccio, coach Lorenzi, non? Je dis une bêtise.
Non.
D'accord, bon, je croyais que tu l'avais entraîné. Et donc, Lorenzi dit, bon, écoutez, voilà, c'est pas parce que des gens ne respectent pas leur engagement que c'est la fin du monde, dit-il. Déçu, non, il y a des choses plus graves. Mais bon, vous savez, on avait un accord, tout le monde était d'accord samedi. Il nous a même appelé pour nous confirmer son choix et nous demander le numéro de maillot, est-ce que le 7 ou le 9 était disponible. Donc, pour moi, c'était terminé. Et en fait, bah voilà, on se rend compte que dans le foot, même quand on a la parole de tout le monde, bah, ça vaut rien jusqu'à ce qu'on ait signé.
Wow.
Donc, voilà, bon. C'est des choses qui arrivent tout le temps, il faut pas s'en
émouvoir. C'est pas que dans le foot, mais c'est toujours dommage. C'est toujours dommageable que les gens respectent pas leurs paroles. Bien sûr, c'est...
Non, ma problématique, c'est comment il réagit. C'est-à-dire que le mec, il est presque sans voix. Il a plus de...
Il est désabusé, quoi.
Ouais, désabusé. Et ça, c'est triste, en fait.
C'est peut-être une pause. Le directeur sportif, tu parles?
Ouais,
parce que... Dit, bah, c'est peut-être une posture, histoire de
mais
dire,
moi,
voilà.
Moi, je trouve
qu'il peut faire ce qu'il veut, mais c'est pas grave, quoi. Le club est plus fort.
Mais c'est un réalisme plutôt froid, quoi. C'est-à-dire que c'est, vas-y, je fais ce que je veux. Et maintenant, les gens, ouais, il fait ce qu'il veut, on s'en fout, en fait.
17 buts.
À une certaine époque, je peux te raconter une anecdote.
Ah, bien sûr.
Tu la prendras à l'inverse. C'est une anecdote concernant Claude Béze.
J'adore les anecdotes avec, de coach, moi.
Avec, si tu veux, sa façon de parler, sa façon de parler en bégayant, ce qui lui permettait aussi, des fois, de réfléchir à ce qu'il, à ce qu'il allait dire. C'était quand même un gars hors du commun. Et un jour, il me raconte un truc en ce qui concerne Gamrich. Gamrich, donc, qui devait signer à Bordeaux, et il se retrouve à Paris. Donc, il tombe d'accord sur un contrat de 4 ans, et Gamrich, bon, il signe aucun papier, rien, et donc, il se dit, ben, vous avez ma parole, et il se donne rendez-vous à Bordeaux pour la visite médicale. Et en arrivant, il lui dit à Claude Béze, il dit, sincèrement, président, je suis content de venir à Bordeaux, mais j'ai même pas signé à Paris. Et si j'avais signé dans un autre club, et il lui dit, si tu avais signé à un autre club, j'aurais été content parce que j'aurais failli faire signer un connard.
Excellent. J'aime beaucoup.
Excellent.
Eh oui.
Non mais le
coup. Et juste c'est le nom Gerbich qui t'a fait penser à Gamrich ou pas du tout? Okay.
Non. D'accord. C'est quand je vous entends la parole par la parole. Écoute.
Mais le problème c'est que la parole.
Ça c'est un petit peu des trucs à l'ancienne.
Mais comme dirait Emmanuel Petit, c'est le serpent qui se tord la queue. Mais c'est juste que en fait, d'un côté, t'as les clubs qui traitent les joueurs comme de la marchandise quand ils peuvent. Ouais. Donc forcément, les joueurs, eux, de leur côté, ils disent, de toute façon, je suis qu'une marchandise, donc je vois pas pourquoi je me ferais chier à avoir des sentiments. Du coup, comme les joueurs ont pas de sentiments, bah, les clubs les traitent comme de la marchandise. Et puis voilà, c'est en fait.
Ouais, mais Julien,
on n'en finit jamais. C'est un système qui fait que chacun considère que lui, de toute façon,
on était aussi considérés à notre génération et la génération de Roland, on était considérés aussi comme de la marchandises, il y avait des transferts, il y avait des trucs, on disait il faut que tu ailles ailleurs, tout ça. Et je pense qu'on avait quand même une certaine déontologie qui n'existe plus
ça
maintenant.
Ça dépend qui. Bon allez, on arrête. On revient dans un instant pour se détendre.
Mais il se mettait des perruques sur le terrain, il parle de mensonges.
Oui, c'est vrai, il a trompé tout le monde. Il a trompé la France entière.
Quelle déontologie il y avait là-dessus?
J'avais une déontologie, je m'excuse, j'avais peut-être une perruque, mais j'avais
une déontologie. C'est de la triche quelque part, tu pouvais amortir la balle avec ta tête.
Mais ta gueule.
Ah, c'est vrai que c'est une façon de tricher. Allez,
il a même fait croire à certains qu'il était footballeur.
Ouais, et pendant 17 ans.
Le rendez-vous, il n'y a aucune triche, c'est le blind test, à tout de suite. Non mais attendez, c'est...
Il n'y a pas de triche au blind test.
Toi, t'as déjà triché au blind test?
Non, mais parfois j'ai les noms de ceux
qui ont triché. Du gars, t'as déjà triché
au blind test?
Ouais.
Non, jamais ça.
Bon, coach. Pop.
Ah, je trouve pas une réponse. T'imagines si en plus je suis tricheur.
C'est vrai que s'il triche, là, c'est chaud. Il y a un problème, ouais. Mais en plus, je me demande si quand même il n'y a pas eu des petites triches avec coach, mais il met tellement de temps à dire. Ah bon. Même quand on lui dit. Enfin bon, bref. Non, évidemment, il n'y a aucune triche.
c'est un jeu qui se fait sous respect de règles strictes.
Tu vas me faire passer pour plus con que ce que je suis.
Non, pas plus con, mais parfois.
Un peu long.
Un petit manque de réactivité, parfois. Voilà, ça arrive.
Un peu long, un chat, une chatte.
Parfois, tu bégayes pour chercher tes mots, coach.
Ah, ben écoute, ça, c'est comme
ça. Ça me permet de réfléchir. Voilà, exactement. Julien, aucune triche.
Et après, il arrive Christophe.
Moi, et voilà. Moi, le problème, c'est que la triche arrive après que j'ai répondu.
Ouais, c'est ça. Et du coup, je me dis que ça aurait été pas mal que tu bégayes parfois.
Bah, pourquoi pas.
Pour réfléchir à ce que tu voulais dire.
Ouais, pour réfléchir avant de. Ouais, c'est
parce
pas
que parfois, t'es bon, dépasser ta pensée.
Ouais, c'est pas mal, c'est vrai.
Toi, oui, Claude Bess, c'était ton premier président.
Oui, bah, j'étais jeune, j'étais au centre de formation. Même la pré-formation, oui, bien sûr.
Un gars vraiment attachant.
Hein. Ouais, il était incroyable, quel charisme. Il arrivait avec sa voiture.
T'as passé des petits savons, non?
Ah oui, il m'en a passé plus d'un. Ouais. Bah oui, mauvaise attitude en tant que jeune, voilà, râler après les arbitres. Et tu peux
c'est ta faire... coiffure aussi qui lui plaisait pas trop. Hein.
C'est pas faux. Alors que j'adorais sa moustache.
Mais tous, ils ont eu du mal avec ta coiffure, c'est incroyable. Hein.
Bah, pourtant, j'avais pas vraiment le choix, je pouvais faire que ça, sincèrement.
C'était énorme la moustache de
Claude Bess.
C'était énorme, c'est Dupont et Dupont.
À l'époque, c'était ça aussi, non? T'as jamais voulu te laisser la moustache, toi?
Non plus.
Il avait sur la tête la moustache.
Je crois au regard qu'il l'a déjà fait.
Non, c'était Dupont et Dupont, non, mais qui était l'autre Dupont?
Bah, il faut le trouver. Quoi? À des termes.
Parce que moi je sais que par exemple, au PSG, Arthur Georges et Denis Troche, c'était vraiment Dupont et Dupont.
Ouais.
RMC, 18h20h.
Tim Duga.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, Tim Duga continue. C'est le moment que la France, le monde entier attend. C'est le moment du blind test avec Roland Courbis, Franck Leboeuf, Julien Cazard et Jean-Louis Tour.
Équipe champion du monde, Dugarry Leboeuf. Équipe. Numéro 1 à la race avec le dernier à la race. Cazard Courbis.
Les extrêmes.
Il est en pleine forme, mon coach.
Ah bah, tu le portes aussi, coach. Hein. Sans toi, je pense que
c'est
rien.
C'est sûr.
On
est complémentaires.
C'est du Gary Zidane, quoi. Après, chacun fait son choix de qui est qui.
Mais... Allez, arrête un peu. Moi, j'ai plutôt maquillé les Zidane.
Il reste 2 jours, Jean-Louis. Fais pas le malin. Fais attention.
Ça va, c'est bon, c'est fini maintenant.
Hein. Ah, non, à la limite, du Gary Tolo. Du Gary Bancarel.
Ah oui, bien sûr. Avec vous, Jordan est là également. Salut Jordan.
Bonjour, c'est Jean-Louis, salut Duga. J'avais un petit mot pour Duga et Franck avant de passer. Moi, j'ai 29 ans, je suis né en 91. Donc moi, je suis de la génération 98 et j'avais juste un seul mot à vous dire. Donc, sincèrement, du fond du cœur, merci. Merci beaucoup parce que c'est vous qui m'avez fait aimer ce sport. Ah, et grâce à vous, je suis amoureux du football. Et sincèrement, j'ai la voix qui tremble parce que
c'est adorable. Du monde.
Et franchement, merci beaucoup parce que.
Attends, vous avez fait aimer la victoire ou le football? Parce que moi, ils m'ont fait aimer la victoire. Hein. Le football, c'est platine.
Mais laisse-le, il est ému. T'as un problème avec l'émotion, toi.
Mais il n'est pas brésilien.
Mais on va faire venir aussi aller.
Il est
brésilien d'origine.
En fait, il a des gars qui sait que pour le blind test, il va pas choisir.
Pourtant, je suis parisien. Je suis un pur parisien. Sincèrement.
Ouais, t'as l'habitude de pleurer aussi, remarque.
Merci, ouais, franchement.
Bon, bah, Jordan, je te mets avec Duga et Francky alors.
Ah, bah, d'office.
Et Julien est là également. Salut, Julien.
Bonsoir, salut à tous.
Bonsoir, Julien.
Salut, Julien. Tu vas jouer avec Julien, donc Cazard et coach Courbis.
Parfait, impeccable.
Donc, on y va. Une chanson, on cherche l'artiste et puis après une question.
Allez, oui, Julien.
Allez, c'est parti.
Ouais. C'est quoi ça?
Micro test, 1, 2.
Oh là, je sais pas.
Baby B?
Non, je pense que vous trouverez jamais.
Ouais.
Scoblar.
Vous ne l'avez pas.
Lucien Denis.
Vous ne l'avez pas. Il s'appelle Fab. L'impertinent. Oh, voilà, d'accord.
Barthez.
Mais c'est Toto qui a encore fait les.
Oui, là, c'est encore des restes du réalisateur d'hier. Pour vous dire. Daniel Torres, qu'on envoie.
C'est Barthez.
Alors là, je vous avoue que j'avais fait cette question. Enfin bon, sorti en 98, qui gagne la Coupe des Coupes en 98?
Chelsea.
Ouais, bien joué, Francky.
Oh non, je suis premier.
Non, c'est
je suis premier là.
C'est moi.
Non, mais attends, il est en plateau, Franck?
Oui, ouais, je suis en plateau.
Mais
désolé, t'as qu'à te déplacer. Tu viens quand tu veux.
Il habite loin, dis donc. Attends,
il habite à 300 mètres.
Ouais.
Non, mais moi, je suis.
1-0 pour les champions du monde.
Je peux pas vous donner le coronavirus.
Nouvelle chanson.
Bruno Mars.
Oui, Duga. Bruno Mars. 2-0. Et pourtant, t'es à distance,
c'est
du gars.
C'est extraordinaire, Bruno Mars.
Il m'en reste encore un peu pour 2 jours. Il me reste du talent pour 2 jours. Magnifique. Après, c'est cuit.
2-0. Alors, bah Bruno Mars, on va chercher un joueur. Je vais vous donner quelques indices. Un joueur né au mois de mars. Le 14 Duga mars même. 1979. Je vais vous donner ses clubs par ordre.
Anelka.
Ah oui, Anelka. Francky.
Comme par hasard.
Incroyable, j'ai même pas donné les clubs.
Ouais, mais je sais pas.
3-0.
Je te dis un truc, l'enquête ne se fait même pas.
Non mais parfois il y a des fulgurances, on peut laisser.
79, j'ai à peu près calculé, et quand tu as dit je vais vous donner les noms par ordre, je me suis dit il y en a beaucoup.
Ouais, c'est vrai, il y en avait beaucoup.
Anelka.
Bon bah ça fait 3-0.
Ah Nico, merci.
Julien et coach, vous avez le droit de jouer. Nouvelle chanson.
Tainted Love, j'ai chanté ça à Massinger.
Quelle belle expérience, Francky à Massinger.
Le pont, bien sûr.
Voilà. Ouais, bon, ça fait 4-0. Hein. C'est un peu gênant.
Julien, ça va, Jordan est là. Tu nous as remercié. On te donne tout ce
que tu veux. Mais Julien, où?
Et il est encore là, Cazard?
Il est parti, il a raccroché, énervé.
Moi, je vois pas pourquoi. Je suis pas obligé de parler s'il n'y a pas de réponse.
Ah oui, j'ai eu peur.
Je suis pas obligé de parler, moi.
Ah,
allez, c'est ça. Alors, donc c'est un groupe originaire.
Softcell. Il y a un décalage, non?
Petit.
Alors, c'est un groupe originaire de Leeds.
Les Beatles.
Ouais.
Question autour de Marcelo Bielsa. Quel est son dernier titre remporté?
Copa América, JO.
JO du gars. 5-0. Voilà, c'est impressionnant.
Mais ils sont là, mes coéquipiers.
Et Cazard, qu'est-ce qui se passe?
Non, mais je vous avoue qu'en fait, là, en ce moment, je viens de voir le but de Wilfried Zaha. Là.
Ah oui,
c'est incroyable.
Oui, t'as un décalage. Ouais, oui.
Il y a un vrai décalage.
Bon, ça fait 5-0. On y va pour une nouvelle chanson. Vous pouvez vous refaire.
Pascal.
Africain.
Voilà, c'est Julien.
Non.
Si, c'est Julien.
Vous êtes gentil, hein. Si, c'est Julien.
5-1.
Allez, je le donne, ça ensemble, mais bon, c'est pas grave.
Simultané.
Si il y a simultané là, c'est que vraiment, il y a tellement de décalage.
Je l'aurais dit avant.
Alors, c'est Cazard.
Mais allez, je te le donne.
5-1. Donnez-moi un joueur de foot dont le nom commence par Gal.
Galas.
Oui, Galas, Julien. Bien joué. 5-2. Allez, nouvelle chanson.
Bravo, Julien, bravo.
On n'a pas de points avec deux réponses.
Gaillardo. Concentre-toi là plutôt, coach. Tu peux l'avoir.
Adèle.
Debussy. Non.
Nicole Croisy.
Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui chante pas vraiment.
Un grand corps malade.
Bien joué, Francky. Ah là, je crois que le match vient d'être plié.
Johan Gourcuff. Johan Gourcuff.
Ah bah effectivement.
Diaby.
Question sur Johan Gourcuff.
Ah merde.
Combien de sélections compte-t-il? Une réponse seulement.
22, 37, 18.
45.
Mais
non, pas autant.
26.
26 pour coach. Et bah c'est coach qui est devant. C'était 31, c'est coach le plus près. Donc il offre un point, mais ça fait quand même 6-3, victoire de Jordan. Donc
oui. Voilà, bravo Jordan,
on t'envoie un t-shirt RMC Jordan et les champions du monde 98 t'ont encore une fois régalé, même en 2020, tu vois.
J'avais un petit bonjour à passer.
Bah vas-y, bien sûr.
Mon ami donc il s'appelle aussi Jordan, voilà, alias Roberto Carlos. Donc c'est sur Twitter Jordan Anchoco et un grand bonjour à lui et du gars, merci.
T'embrasses Jordan Ayou aussi.
Salut Jordan, ciao.
Salut Jordan, merci.
On t'embrasse.
Salut poulet.
Salut, merci tout le monde. Franck Leboeuf, coach Courbis, Julien Cazard, du gars. À demain 18h dans une seconde, le RMC Football Show spécial foot européen. Ciao à tous.
RMC 18h-20h. Team Dugas.